Alors bonsoir, bienvenue chez Avraham Ben Aaron. Le sujet de ce soir, est-ce qu'il faut se saouler à Pourim? Vous avez tous déjà entendu probablement certains qui disent oui, bien sûr, il faut se saouler, il faut boire, c'est mitzvah, c'est chiyuv, c'est obligatoire. D'autres qui disent chasvei shalom, c'est interdit. On va essayer de mettre un peu de clair là-dedans. En fait, tout part d'une gemara, comme tout d'ailleurs. Tout part d'une Gemara dans Masechet Megillah. Il y a 7 petites lignes dans la Gemara, en tout et pour tout. Après, évidemment, on pourra toujours utiliser d'autres textes en parallèle pour essayer de clarifier, mais à l'origine, il n'y a que 7 petites lignes dans la Gemara Megillah. Ça se trouve dans Megillah Zayin Amud Bet. Et à partir de ces 7 lignes de Gemara, tout part dans tous les sens. On peut les comprendre de 1000 manières, d'où toutes ces marloktot. Il y a énormément d'avis. Je n'ai pas la prétention de ramener ici la totalité. Ça serait absolument impossible dans l'espace de 15 heures. On va essayer de dire un petit peu quelques trucs pour clarifier un peu qu'est-ce qui se passe exactement. Dans la Gemara, le plan est très simple. Il y a d'abord une loi énoncée. Ça ne veut pas dire que ce sera la loi retenue, mais c'est une loi énoncée. Et suite à ça, une histoire racontée. Alors, je vous lis la Gemara juste pour savoir ce qui est dit déjà dans la Gemara. C'est l'essentiel. À partir de là, on partira avec 3 volets dans le shiur. La Gemara dit comme ça. Amar Rava, Michaya Vinish Levasume Bepuria. Rava dit, un homme est tenu, Levasume, on va traduire pour l'instant, se saouler, Bepuria pendant Purim, Ad Deloyada Benaru Aman Lebaruch Mordechai, jusqu'à ce qu'il ne sache pas, littéralement, entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Rashi explique, Levasume, ça veut dire quoi? Lishtaker Beyain. Levasume, ça veut dire se saouler avec du vin. Donc selon Rashi, il faut se saouler jusqu'à ce qu'on ne sache pas entre Arur Haman et Baruch Mordechai, qu'est-ce que ça veut dire, on verra. Suite à ça, la Gemara ramène une histoire. C'est quoi l'histoire? Rabba et Rabbi Zira avdou seudat Purim ba'adeh adadeh. Rabba et Rabbi Zira ont fait le repas de Purim ensemble. Ifsum, se sont enivrés. Kam Rabba charté les Rabbi Zira. Je vous le traduis pour l'instant en littéral, mamash littéralement tel que c'est marqué. Rabba a égorgé Rabbi Zira. Il a bu, hop, est parti, il a pris un couteau, il a égorgé. Les Machar, Ba'er Rachamé, le lendemain, se rendant compte de la boulette, il a, Ba'er Rachamé, il a demandé de la miséricorde, c'est-à-dire qu'il a prié Dieu pour que ça aille un peu mieux, pour lui remettre la tête sur les épaules, Ve'achye, et il l'a fait revivre. Je traduis pour l'instant en sens pshat, pashut, littéral, comme un enfant lirait s'il avait un dictionnaire. Les Shana, l'année suivante, à Marley, il lui a dit. Tu viens, on recommence, on se fait un petit pourim à la maison. Amarle lui a dit, oh, c'est pas à chaque moment, pas à chaque année qu'on va avoir des miracles comme ça et que je vais m'en sortir. Bref, il l'a invité, il a décliné, il n'a pas voulu se faire inviter. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Donc, la loi de Rava et l'histoire, c'est tout. Il n'y a pas de conclusion à l'achri, il n'y a rien, ça s'arrête comme ça. Là-dessus, on va poser 3 questions qui vont être les 3 sujets que l'on va traiter ce soir. 2 petites questions, 2 petits sujets et un gros sujet. Première question, comment c'est possible qu'il égorge son copain? C'est quoi ces histoires? Comment c'est possible un tel truc? Comment c'est possible aussi qu'il le fasse revivre? On va dire que ça c'est encore accessoire. Deuxième question, quelle est la halakha? Est-ce que la halakha est retenue comme Rava qui dit qu'il faut se saouler à Purim ou pas? On verra que c'est pas si évident, qu'il y a une marloquette, il y a beaucoup d'opinions là-dessus, et certains pensent que ce n'est pas retenu à l'achat les maasés, malgré qu'on ne voit personne qui soit en désaccord dans la Gemara, on expliquera comment c'est possible. Et troisième point, ce sera ça l'essentiel, d'après ceux qui pensent qu'on est tenu de se saouler, donc il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas se saouler, ceux qui pensent qu'il faut se saouler, d'après ceux qui pensent qu'il faut se saouler, est-ce qu'il faut vraiment se saouler, et si oui, vraiment à ce point, ou bien on peut se contenter d'une plus petite dose. Premier petit volet. Comment est-ce possible qu'il ait égorgé son copain? Comment on peut imaginer une telle chose? Il y a énormément d'explications là-dessus dans le Mefarshim. On va en citer 7 seulement. Kenire, parce qu'il n'y a que 7 lignes dans la Gemara. On va citer 7 explications là-dessus. La première, le Gidoulé Trouma. Gidoulé Trouma, c'est Rabbi Azaria Pigeot. C'est un rabbin en Italie, né en 1579, mort en 1647. Il était rave de Pise pendant 20 ans, puis de Venise pendant 20 ans. Il est possible que son nom de famille, Pigeot, lui vienne de la ville de Pise. Pisa, on dit en hébreu. On n'allait pas l'appeler Pizzarouve, Pizzaiolo, ça fait trop bizarre, on l'a appelé Pigeot, ça passe mieux. Et ça roule bien en plus, la Pigeot. Et on l'a appelé Rabbi, c'est un nom de famille qui existe en France. Il y a des noms juifs qui s'appellent Pigeot en France aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est l'origine de ce nom. En tout cas, Rabbi Azaria Pigeot, il est très connu pour son Gidoulé Trouma dans les Yeshivotes. Il a écrit aussi un livre de Drushim qui s'appelle Bina Laetim, qui est très important. Dans le Bina Laetim, à la fin de Drush Rafalef, il veut expliquer qu'en fait, c'est quoi cette histoire que Rabba chartait les Rabbi Zira, Rabba a égorgé Rabbi Zira, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il a pris un couteau et qu'il a tranché la gorge. Égorgé, ça veut dire qu'il l'a embrouillé avec des pilpoulim malachiques. Il lui a parlé de plein de pilpoulim, de telle sorte qu'après, Rabbi Zira s'est retrouvé complètement perdu, chamboulé, il savait plus où mettre de la tête. Il ne comprenait plus rien, il était comme paralysé. Et là-dessus, Il a prié le lendemain Rabat pour qu'il guérisse, il a guéri et tout va bien. Alors apparemment lui-même, le Rav Pigeot lui-même, a dû ressentir que son commentaire il est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu tiré par les péotes. Et il a expliqué, il dit lui-même dans la suite, « Vachem atov yichaper ba'adi » que le bon Dieu me pardonne, imchas veshalom yatzati minaraoui bezé, si je me suis un peu égaré en disant n'importe quoi là-dessus, veiratse kavanati, que Dieu s'intéresse à mon intention plus qu'à mon pshat, c'est par des bonnes intentions que j'ai voulu expliquer comme ça, etc., etc. Donc il n'est pas persuadé lui-même, et moi non plus j'en suis pas persuadé non plus de ce pshat. Et il conclut avec une prière, un souhait, d'arriver au jour où se dévoilera enfin la vérité sur toutes ces agadotes, tous ces mahamarim étranges dans le Talmud. Bref, dans le Ben Yehoyada du Ben Yishra, il y a un petit commentaire qui ressemble à ça, il ramène un commentaire au nom de Mekoubalim, qui eux disent que c'est sa Neshama, Rabbi Zira, qui l'a quitté, sa Neshama l'a quitté par le feu de la discussion et des vikuchim halachiques avec Rabba. Ça ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose, il n'y avait pas de couteau quand même, sauf que d'après ça, il serait réellement mort. Ça, c'était la première explication. Deuxième lecture dans la Gemara, celle du Meiri. Le Meiri sur place dans Megillah Zayin Amoud Bet. Il dit « erreur de lecture ». Il n'est pas marqué « kam rabba charté les rabbi zira ». Dans la Gemara, vous savez, il n'y a pas la ponctuation, les points. Ce n'est pas « charté », c'est « sarté » avec un signe. Il n'y a pas le point dans la Gemara, on ne sait pas si c'est « charté » ou « sarté ». Il dit « c'est pas charté, c'est sarté ». Qu'est-ce que ça veut dire « sarté les rabbi zira » Milashon srita. Srita, ça veut dire essoré, pressé, écrasé, quelque chose comme ça. Il dit « ça veut dire quoi ?» Ça veut dire qu'il l'a écrasé. Peut-être qu'il lui est tombé dessus, il était en ivre, il est tombé, Rabba est tombé sur Abizira, je ne sais pas. Et en l'écrasant, il l'a blessé, il l'a affaibli, il ne se sentait pas bien après. Et le lendemain, il a prié pour lui. Et quand on dit qu'il l'a fait revivre, achye, c'est Milashon Echlimani Veechiani. C'est une expression qu'on retrouve dans le Talmud toujours, il l'a fait revivre, ça veut dire il l'a rendu à la vie, il lui a rendu la vie agréable. C'est une façon de parler, ça se dit pas en français, il l'a fait revivre, ça se dit en araméen. En anglais aussi, on dit il lui a rendu son âme. Il y a des langues où ça se dit, en français ça se dit pas, c'est pas grave, mais ça se disait à l'époque, aucun problème. Et par conséquent, dit le Meiri, ni il lui a tranché la gorge, ni il l'a fait ressusciter, aucun problème, il y a eu ni résurrection, ni quoi que ce soit, simplement il a prié pour lui et ça allait mieux. On retrouve la même explication chez Rabbeinu Shem Tov Ibn Shafrut, c'est un Rishon aussi à l'époque du Ritva, dans son livre Pardes Rimonim, Dafmem Amoud Aleph, dans l'édition de Zitomir 1866, c'est Dafmem Amoud Aleph, il explique aussi la même chose. Darko Meod Ad Shechala, il l'a bien écrasé comme ça jusqu'à ce qu'il en tombe malade, il était blessé, et il dit lui-même Kemo, comme le pasouk qui dit Vaesra Totam El Kosparo. C'est un pasouk dans Bereshit, chapitre 40, verset 11. Le pasouk dit, raconte le rêve du maître et chanson qui dit, je me voyais dans mon rêve en train de presser les raisins au-dessus de la coupe de Pharaon. Et donc, c'est la même idée. On voit encore la même idée que le Meiri, c'est l'idée de presser. Et c'est pas, donc il n'a pas la lecture dans la Gemara charté, mais la lecture sarté avec un signe. Troisième explication, Reb Kalman Avigdor Perlo dans Otsar Lashon Chachamim, Siman 5504. Il dit que il ne faut pas dire « sartei » comme on vient de dire, avec un « chet », mais « sartei » avec un « reish ». En fait, le « chet », il dit c'est une erreur, c'est une petite tache d'encre en plus, c'est un « reish » et c'est « sartei ». Ça veut dire quoi « sartei » ? Il lui a fait une entaille. Ça veut dire qu'il était ivre, il était comme ça, il a bougé, il a donné un coup, pas nécessairement avec un couteau. En tout cas, il l'a blessé un peu sur la main, peu importe, il lui a fait une entaille. C'est ça « sartei ».« Sartei » c'est « milashon srita ». Et c'est rien de très grave, et le lendemain, il a saigné, le lendemain, il a prié pour lui, il a guéri, vezéo. Quatrième explication, le Maharsha. Le Maharsha, là-bas sur place, Megillah Zayin Amoud Bet explique qu'il est trop étrange, bizarre d'admettre qu'il lui ait tranché la gorge, il l'a fait revivre, qu'est-ce que ces histoires. Il dit, il faut dire que charté, ça veut dire quoi? C'est qu'il l'a forcé à boire. C'est quoi charté? Il l'a engorgé, ça se dit pas du tout en français. Il dit, quel rapport il y a entre forcer à boire et faire la shrita? Il dit, tout ce qui se rapporte à la gorge s'appelle la shrita. Donc on peut couper la gorge, ça s'appelle shrita, et on peut forcer à faire passer du vin par la gorge, ça s'appelle aussi shrita. Donc il dit, c'est uniquement, c'est Al-Shem Agaron, charté, ça veut dire il l'a engorgé, il lui a fait engorger du vin, c'est ça l'idée. Et après quand on dit achye, il dit pareil, ça veut dire qu'il n'ira pas, qu'il a guéri, comme on voit dans plein d'endroits, il dit qu'on trouve ça partout, que Lashon chay, ça veut dire refoua en araméen, on dit il l'a fait revivre, ça veut dire il a guéri, c'est comme ça que ça se dit. Ça c'était le Maharsha. Cinquième explication, le Siftei Chachamim. Siftei Chachamim, dans Megillah sur place Zayin Amoud Bet, dans le livre Siftei Chachamim, l'ancienne édition, c'est Daf Rav Zayin Amoud Aleph, dit le Siftei Chachamim qui lui a fait une chavala, ça veut dire une blessure, Bemakom Simanim. Lui aussi, il parle de la blessure, mais pas sur la main, vraiment sur la gorge. Il l'a blessé à la gorge, peut-être avec un couteau, peut-être autre chose. Voilà, dans la folie, dans la joie, en dansant, en chantant, il lui a mis un coup sur la gorge. Et quand on dit Achie, encore une fois, ça veut dire qu'il a prié pour qu'il guérisse, et il a guéri, ça ne veut pas dire qu'il a une résurrection ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il l'a fait guérir. On retrouve la même explication sous la plume de Rabbi Raphaël Berdugo dans Charvit Azahav, Chelek Bet, page 14. Et tous les deux ont été Mechavnim, le pirouche de Rabbi Avraham ben Arambam. Déjà bien avant eux, Rabbi Avraham ben Arambam, le fils du Rambam, avait pensé à ça dans son Mahamar sur les Drashot dans l'édition de Ravon Margolios, c'est page 95, Tzadik Hei. Il écrit aussi la même idée, la même chose, et ce Rabbi Avraham ben Arambam est aussi cité dans le Rikrelev Landsberg dans Chelek Bet, page 107. Bref, tout cela dit, c'est une idée de, il l'a blessé réellement, mais il n'est pas mort du tout. Ça s'appelle Charté parce que tout coup porté au cou, coucou, ça s'appelle aussi Shrita. Sixième explication, le Yahabet. Ça vient quand même d'Anne, lui, il dit qu'étant donné que tout le monde était très joyeux, on s'est retrouvé à plusieurs, il n'y avait pas que eux deux, ils étaient avec la famille, avec beaucoup d'amis, il y avait beaucoup de monde, et Rabba trouvait qu'il y avait trop de joie. Rabba était Ashkenaz. Il trouvait que c'était trop joyeux, ça partait dans tous les sens et tout. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette ambiance-là? Il dit, c'est marqué, dit le Yahabet, c'est marqué dans le Passouk, dans Michelé 14-23, Bechol Etsev Yehé Motar. Apparemment, il explique le Passouk comme le Pirush Rashi dans Shabbat d'Aflamed Amoudbet, qui explique ce Passouk-là, Bechol Atzvut Yesh Sachar. Dans toute tristesse, il y a un salaire, il y a une récompense, il y a du positif dans la tristesse. C'est bien d'être triste. Rashi aussi était Ashkenaz. Cette idée, c'est une idée qui existe chez beaucoup de Mefarshim, l'idée de dire que être triste, il y a du positif, c'est bien d'être triste, c'est un bon truc. La tristesse seule est féconde en grandes choses, disait Ernest Renan. C'est marqué comme ça, il a écrit un livre en 1871, quand c'était la pagaille avec les Allemands, les Français étaient complètement démoralisés. Il a écrit « La réforme intellectuelle de la France », un truc comme ça, « Intellectuelle et morale de la France ». Page 121, il cite cette phrase-là, c'est une phrase très connue. Le Shvout Yaakov, lui aussi, dans « Chelek Aleph Siman Kouf Pebet », il écrit que à Pourim, il ne faut pas perdre de vue que l'interdit, ce qui est marqué dans la Gemara Brachot Lamed Aleph, daf Lamed Aleph dans la Gemara Brachot, c'est marqué « Leolam al yimaleh adam srok piv ». Il est interdit à un homme d'emplir sa bouche de rigolade, ça veut dire pas de fou rire. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler du temple, etc., etc. C'est un rappel. Alors, on peut rigoler, mais il y a des limites. Il ne faut pas non plus partir, ne plus se contrôler dans le rire. C'est marqué comme ça dans la Gemara Brachot, Daf, Lamed Aleph. Rassurez-vous, ce n'est pas un Issour Gamour. Quand on dit Issour, puisqu'on là-bas, on fait les Shvachim d'un rabbin qui s'est tenu à cette recommandation. Donc, apparemment, c'est que pas tout le monde le faisait. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Dit le Shvout Yaakov, cette idée est valide aussi à Purim. Ce n'est pas parce que c'est Purim qu'on peut se permettre n'importe quoi. Et en fait, le Taz l'a déjà devancé. Le Taz, dans son commentaire, Shurhan Aruch Haim, Taf Kuf Samer Sif Katan Zain, déjà l'écrivait que même à Purim, on est censé faire attention de ne pas s'attraper des fous rires. Ils sont tristes, hein, c'est tous des Ashkenazim ici. Alors, dit le Yahabet, donc comme il a vu, comme Rabba a vu, que ça partait vraiment en live, ça partait dans tous les sens, tout le monde rigolait, on n'arrivait plus à se contrôler, le Yahabet, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabba? Be achizat enaim, par un tour de prestidigitation, ça veut dire, il était habile, et hop, il a fait semblant, comme s'il lui tranchait la gorge. Il a pris un couteau, il a pris un peu de jus de tomate ou de ketchup, il a fait hop, pfiouf, et hop, et ça a dégouliné. Comme ça, tout le monde a eu peur. Tout le monde s'est dit, ah là, il a tranché la gorge. Ça a calmé tout de suite l'ambiance. Le problème, c'est que tout le monde y a cru, même Rabbi Zira. Et quand Rabbi Zira, il a vu ça, et il a vu tout ce ketchup qui s'échappe de sa gorge, il était pris de panique et il est tombé dans les pommes. Il a perdu connaissance. Comme il est tombé dans les pommes, c'est pour ça qu'il a dû prier après pour sa guérison. C'est comme ça qu'explique le Yahabet ce qui s'est passé dans la Gemara. C'est un peu rigolo qu'il a prié que le lendemain, c'est-à-dire qu'il a laissé depuis Pourim jusqu'au lendemain, ou bien on peut dire qu'Aniré, après il s'est réveillé, ils lui ont mis quelques claques et il s'est réveillé, seulement le lendemain il était encore faible et tout, il n'était pas bien, donc il a prié pour sa guérison, il s'est rétabli, tout allait bien. Mais, conclut le Yahabet, il est hors de question d'imaginer une seconde que Rabba ait réellement versé du sang. Impossible, inimaginable, même dans le cadre de Pourim. Septième et dernière explication que l'on va donner, Halichot Shlomo, Shlomo Zalman Auerbach, dans Chelek Bet, Hamoud Shin Mem Gimel 343 dit, c'est certain que Rabba n'a pas versé le sang de Rabbi Zira, c'est sûr qu'il ne l'a pas égorgé, c'est impossible et impensable. Il dit, il est possible qu'étant sous, Rabba l'ait humilié. Il est possible que Rabba ait fait honte à Rabbi Zira, il fait une petite blague qu'il l'ait humilié, etc. Il dit, Albanat Panim Keretzicha. Faire honte, c'est considérer comme tuer quelqu'un, vous connaissez tous, le sang qui monte, le sang qui descend. Ça m'a toujours choqué cette histoire. Comment on peut dire que faire honte, c'est comme tuer? Quand même une petite différence, non? C'est pas exactement la même chose. Je trouve ça bizarre. Comment on peut comparer Albanat Panim Keretzicha? Jusqu'à ce que je vois dans le shoot Yechaveh Da'at de Rav Avadia Yosef, dans Chelek Hei Siman Nun, il raconte là-bas que Rabbi Shimon Sofer, le fils du Khatam Sofer, celui qui a écrit le shoot Mirtav Sofer, Rabbi Shimon Sofer est mort de tristesse, de Ogmat Nefesh, il est mort de vexation suite à un Pourim où le Pourim Rov, c'est quelqu'un qu'on nomme qui fait le rabbin de Pourim et il fait le mariole et il se moque un peu de tout le monde, entre autres du rave local. Et il y a beaucoup d'alachot là-dessus qu'il faut faire attention, il ne faut pas se moquer du rave, tatati tatata. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, ils se sont moqués de lui. C'était le rave de Cracovie. Et ils se sont moqués de lui apparemment un peu trop. Et ça l'a vexé. Et il ne s'en est pas remis. Et il en est mort. Donc voilà. Il y a apparemment un lien entre Albanat Panim et Eretz Sicha. Il y a un petit lien. Voilà, il est mort le 16 Adar, donc deux jours après Pourim, en 1883. Il avait 62 ans. Et c'était le fils du Khatam Sofer. Ça, c'était pour les sept explications, comment comprendre cette Gemara sans la lire Kepshuta. Deuxième petit volet, quelle est la halakha? Comment on tranche la halakha? On a vu que Rava disait qu'il faut se saouler. Est-ce que c'est la halakha ou pas? Alors évidemment, à vue de nez, quand on voit qu'il n'y a personne qui s'oppose à Rava dans la Gemara, pourquoi irait-on penser que ce n'est pas la halakha? Évidemment, Rava, il a dit, personne ne s'oppose dans tout le Talmud. C'est que c'est ça? Eh bien non. Alors on voit certains qui ont suivi cette logique, le Rif d'Avgimel Amoudbet dans les pages du Rif, le Tour dans Chaim Simantaf, Reish Tzadik et le Rambam. Le Rambam aussi, dans le Chot Megillah Perekbet à la Khatet Vav, sur la compréhension du Magid Mishneh, ils comprennent tous les trois que la halakha est comme Rava. Chaya, Vinish, Levasume, Bepuria, il faut se saouler, point final. C'est comme ça qu'eux comprennent. Pourquoi? Parce que personne ne s'est opposé à Rava. Mais d'un autre côté, on a plusieurs poskim qui ne pensent pas ça, plusieurs poskim qui pensent que la halakha n'est pas comme Rava. Rabbeinu Ephraim, le plus connu d'entre eux, Rabbeinu Ephraim, le Ran aussi, le Ran est dans ses Chidushim sur place dans Megillah Zayin Amoud Bet, et aussi le Ran sur le Rif, Daf Gimel Amoud Bet en bas, le Baal HaMaor sur place, le Shibole Aleket dans Siman Resh Aleph, le Meiri, tout cela pense que la Halakha n'est pas comme Rava. Comment ça se fait? Ils disent parce qu'étant donné que la Gemara, juste après cette Halakha de Rava, a ramené l'histoire de Rabba et Rabbi Zira, attention à la subtilité, Rava, Rabba. Rava, c'est celui qui a dit la Halakha, Rabba, c'est celui qui aurait tranché la gorge à l'autre. Comme juste après la halakha de Rava, on nous ramène l'histoire de Rava et de Rabbi Zira. Apparemment, hein, pourquoi on ramène ces histoires-là? Apparemment pour dire que c'est pas bien ce qu'il a fait, ce qu'il a dit Rava. Faut pas se saouler. Regarde ceux qui se saoulent, regarde ce que ça a donné. Si la Gemara l'a ramené là, cette histoire, c'est pas en vain. C'est pour nous dire que la halakha n'est pas retenue comme ça. Et donc, conclusion en fait, il faut pas se saouler. Donc on peut trouver une Gemara, personne ne s'est opposé à Rava dans la Gemara, et pourtant le fait que la Gemara ramène cette histoire après, ça nous indique que la halakha ne doit pas être comme Rava. Le Bach appelle ça, le Bach dans Siman Taf Reish Tzadik He, il dit, ça s'appelle, c'est typiquement un cas, on appelle ça un Maaseh Listor. Maaseh Listor, ça veut dire, j'ai une histoire, l'histoire c'est pas l'histoire, hein. L'histoire c'est pour contredire. Maaseh Listor, ça veut dire qu'on nous raconte une histoire dans la Gemara, on se demande pourquoi la Gemara raconte ça ici, on dit forcément, si la Gemara nous l'a raconté, c'est pour nous dire que la halakha qui est contrée, qui a l'air d'aller à l'encontre de cette histoire, n'est pas retenue. Donc ici c'est le cas, et ici on a ramené ça, c'est parce que c'est Maaseh Listor, et donc la halakha n'est pas comme Rava, point final. Il semblerait que ce soit aussi la compréhension de plusieurs autres rishonim qui n'ont pas mentionné cette halakha qu'il faut. Ils n'ont pas dit qu'il faut se saouler à Pourim. Pourquoi ils ne l'ont pas dit? Apparemment parce qu'ils pensent que c'est Maaseh Listor et donc ils n'ont pas retenu. Le Behag, à la fin du Hilchot Megillah Siman Yutet, il aurait dû dire là-bas qu'il faut se saouler quand on parle des lois du repas. Il n'en parle pas. Comment ça se fait? C'est qu'apparemment lui aussi il considère Maaseh Listor et c'est pas le seul. Il y a le Behag, le Smag aussi, le Smak aussi et le Yireim. Tout cela ne cite pas cette halakha. Il semblerait que tous se rangent selon l'opinion de Rabbeinu Ephraim contre le Rif et pensent qu'il n'y a pas de halakha de se saouler à Pourim. Néanmoins, ce Maaseh Listor, c'est uniquement sur la partie Adeloyada, ça veut dire une ivresse excessive. Mais si c'est boire un petit peu, ça on l'apprend de Mishteh Vesimcha, déjà dans l'Agmara, du Passouk qui dit que c'est des jours de Yémé Mishteh Vesimcha, c'est que c'est bien de se saouler, enfin de boire un peu pour être content, pour être gai. Mais plus que ça, non. C'est comme ça que dit le Shibboleth Aleket et le Meiri, que même si c'est Maaseh Listor, mais uniquement sur la partie ivresse excessive. Alors maintenant, il faut expliquer comment le Rif et ses acolytes, c'est-à-dire le Rif, le Rambam et le Tour, vont expliquer, vont justifier ce Maaseh. Qu'est-ce que ce Maaseh vient faire là? Apparemment, c'est Maaseh Listor. Si on voit dans cette histoire-là, apparemment, qu'est-ce qu'elle crie l'histoire? L'histoire, elle crie, la halakha n'est pas comme Rava. L'histoire ne dit pas que la halakha est comme Rava. L'histoire a l'air d'indiquer qu'elle n'est pas comme Rava. Si on a ramené cette histoire-là, c'est pour dire ça, puisqu'on voit que dans l'histoire, il lui a tranché la gorge. Alors qu'est-ce que le Rif va répondre? Il y a là-dessus dans le Sefer HaEshkol, Chelek Bet, Ilchot Purim Siman Chet, et le Pri Chadash dit la même chose. Alors le Pri Chadash Omnam défendra cette position ici, mais il dira que de toute façon, halakha les maaseh, de nos jours, il ne faut pas boire, il dit Aderot Mekul Kalim, on n'est plus comme avant, trop dangereux, laisse tomber, il ne faut pas boire. Mais en tout cas, pour répondre au Rif, comment le Rif a compris dans la Gemara, le Sefer HaEshkol, le Pri Chadash disent la même chose. Ils disent qu'au contraire, ce n'est pas du tout un maaseh l'histoire, c'est bien l'inverse. De l'histoire, on ramène, tu vois que la halakha est comme Rava. Pourquoi? Parce que si la halakha avait été annulée, si on avait dit, regarde, c'est trop dangereux, on va, ce qui s'est passé, Rabba et Rabbi Zira, on va annuler cette halakha. Alors pourquoi quand l'année prochaine, l'année suivante, quand il est venu, il vient, on fait Pourim ensemble, il a dit, non, attends, c'est pas chaque année qu'il y a des miracles. Il a qu'à lui dire, oui, on fait ensemble, tu bois pas trop. Pourquoi il a pas dit ça? C'est qu'apparemment, il y avait encore une obligation de boire trop, de boire beaucoup. S'il y a encore cette obligation, c'est bien la preuve qu'on n'a pas annulé la loi de Rava suite à cette histoire. Et donc, dit-il, ce n'est pas un Maasé Listor. Ça, c'est l'explication pour justifier le RIF. Personnellement, je trouve ça très faible. Pourquoi ? Parce que le fait que l'on dise que cette histoire vient casser et que l'année suivante, il n'a pas pu lui dire « Non, non, on ne boit pas, on boit peu parce que la halakha a été annulée », il n'y a aucune preuve. On n'a jamais dit que la halakha avait été annulée directement suite à ça, l'année qui suivait ou le jour qui suivait. Peut-être, ce n'est que 5 ans ou 10 ans plus tard que les Chachamim ont réfléchi, se sont regroupés avec cette histoire-là, ils ont dit qu'il faut absolument annuler cette halakha. Ils l'ont annulée plus tard. Donc l'année suivante, il y avait encore la halakha de Chaya Vinish Levasoumé. 10 ans plus tard, ils l'ont annulée à cause du Maasé Listor. Et quand ça a été mis par écrit dans la Gemara, on l'a mis juste après pour nous rappeler que ça a été annulé. Donc il n'y a pas vraiment de preuves. Et en tout cas, Rabbeinu Ephraim s'en sort très bien. Je préfère répondre comme ça plutôt que d'avoir recours à ce que dit le Khatam Sofer dans le Shoot Khatam Sofer Rahim Siman Kuf Tzadik Vav. Il part dans toutes sortes d'histoires avec une Gemara dans Shabbat Kuf Nun Vav qui parle des Mazarot, etc. C'est pas la peine de rentrer là-dedans, c'est d'Achouk. C'est plus simple de dire comme ça pour répondre à ce que dit le Sefer à Eshkol. En résumé de ce deuxième petit volet, qu'est-ce qui ressort? On a d'abord une Machloket Rishonim, savoir s'il a Halakha comme Rava ou pas. Est-ce que halakha comme Rava? Rava a dit il faut se saouler. Est-ce que c'est la halakha ou est-ce que ça n'est pas la halakha? Ça déjà, c'est une marloquette. On a Rif, Rambam et Tour qui pensent que c'est la halakha. Donc d'un côté, eux disent oui. De l'autre côté, Rabbeinu Ephraim, le Ran, le Baal HaMaor, Shibboleth HaLeket, le Meiri, le Behag, le Smag et le Yireim qui pensent qu'il ne faut pas se saouler. Point. Fin du second volet. Maintenant, troisième volet, le volet essentiel. Donc on va laisser de côté ceux qui pensent qu'il ne faut pas se saouler et on va s'intéresser à ceux qui pensent qu'il faut se saouler. Ceux-là, on va leur demander s'il faut se saouler. Première question, comment est-il possible d'envisager un tel chiyuv? Comment on peut s'imaginer que les Chachamim nous demandent de nous saouler à Pourim ou à une autre date, dans la mesure où on voit un peu partout dans le Talmud et les Midrashim que les Chachamim n'ont de cesse de critiquer l'ivresse? Cette question a été posée par le Kolbo, par le Abu Dharam, par beaucoup de commentateurs. Ils se demandent comment on peut imaginer qu'il y a un chiyuv ou une mitzvah de se saouler, c'est insensé. Ils rappellent ce qui s'est passé avec Noach, avec Lot. On voit toutes sortes d'histoires, c'est pas génial. On voit que l'ivresse n'a jamais amené des choses très positives. Dans le Midrash Bereshit Rabba, Parshat Lamedvav, c'est marqué « Shata shelo bemida venit baza ». Le Ramban écrit dans Parshat Noach, Perektet Pasuk Rava, il dit que même un tzaddik comme Noach, qui par son mérite a pu sauver l'humanité, n'était-ce lui, il y aurait... Voilà, c'était foutu. Malgré tout, le vin l'a fait dévier, le vin lui a fait faire des bêtises, etc. Alors, à plus forte raison pour nous. Même sur Adam Arishon, c'est marqué dans le Midrash, Bamidbaraba par Shayud, que Yain Masralo Chaval et Adam Veshata, Adam s'est laissé aller à manger du fruit uniquement parce qu'il avait bu un peu avant. La Gemara dans Sanhedrin, Aïn Amoudalef, elle nous dit Yud Gimel Vayin Nemrou Beyain, il y a 13 vailles qui ont été dites sur le vin, c'est gravissime, oi vaille. Et dans Bereshit Rabba par Shalamedov, il y a marqué 14 au lieu de 13, mais grosso modo, l'idée c'est de dire que c'est gravissime. Voilà, quand on souligne les vailles, il se marque vaille ceci, vaille cela, vaille Eshker, vaille égal, vaille. C'est pour souligner que c'est grave ce qu'il a fait. Et dans le Midrash Rabba, Vaikra Rabba par Shayudbet, c'est marqué Kol mi shechote yayin arbe, celui qui boit beaucoup de vin, sauf Shemaki et Kol ma shebeme. Avant final, il va régurgiter tout ce qu'il a dans le ventre. Je ne pense pas que le but du Midrash était uniquement de nous dire ce qui va se passer, parce que ça, il n'y a pas besoin du Midrash pour le dire. À mon avis, il y a aussi un enseignement au niveau Remez là-dessus. C'est pas qu'il va sortir ce qu'il a dans le ventre, mais il va nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Ça veut dire ce qu'il a un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont ses midotes, etc., qui vont ressortir. Il y a encore beaucoup d'endroits dans les Chazal où on voit la critique de ceux qui boivent trop de vin. Dans le Midrash Tanchuma par Shachmini Simanhe, tout le Siman est réservé à critiquer l'ivresse, critiquer celui qui boit trop. Le Rambam Maïmonide dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim Chelek Gimel Perekret, il écrit sur les rassemblements de personnes, il appelle ça des Messibot Leshtiat Ameshakrim, un rassemblement de personnes pour boire des boissons alcoolisées ou pour se saouler. Tiye Cherpatam Be'enecha, que leur honte, que le côté ridicule de ces gens-là soit plus grand à tes yeux, c'est plus grave ce qu'ils font, mais itkapsut bne adam arumim, qu'un regroupement de nudistes, de personnes qui se regroupent tout nus, c'est encore plus ridicule de se regrouper pour boire. Rabbeinu Yonah écrit aussi dans Michelet, dans son commentaire sur Michelet, dans Rabbeinu Yonah, Perek Ravgim, Pasuk Ravtet, Rov Mishte Ayayin, Yoli, Dacholayim, Mashu Kaze, que boire trop de vin entraînera plein de maladies, c'est déconseillé. Le même Rabbeinu Yonah, dans Perek Ravgim, Pasuk Lamed Gimel, il dit Yayin, Yishabesh, Adahat, le vin va abîmer, va détourner la pensée, va abîmer la pensée, l'esprit. Le Ibn Ezra, à la fin de Eyov, il dit Ayayin, Yashrit Adahat, le vin va massacrer l'esprit. Et les Chachamim ont déjà dit dans l'Yerushalmi de Maaser Sheni à la fin de Perek Dalet qu'uniquement un Talmid Chacham devrait avoir le droit de boire du vin, mais pas un Ama Aretz. Et malgré tout, la Gemara dans Sanhedrin, Daf Ayin Alef Amud Bet, nous dit que Yain Veshinal Atzadikim Ra Lehem Vera Leolam, que même pour un Tzadik, c'est pas bien de boire. Bref, pour personne, c'est bien de boire. La Gemara dans Yeruvin Samer Hey Amud Alef, et aussi dans Sanhedrin, Ayin Amud Alef, et dans le Midrash, Bamidbar Rabba Parshayut, c'est marqué que le vin n'est là que pour consoler les gens tristes et pour donner du sachar, pour une sorte de rétribution pour les Rechaim qui auraient fait par hasard une petite mitzvah dans ce monde-ci. Alors tiens, bois un coup et c'est fini. C'est ça le but du vin. Bref, on voit que les Rachamim n'ont de cesse de critiquer l'ivresse et ceux qui boivent du vin. Si c'est comme ça, comment on peut envisager qu'il y ait un quelconque triouf de boire du vin et de s'enivrer? Le Rama a dit quelque chose de très étonnant. Le Rama, il a écrit un commentaire. Il s'appelle Mechir Yain, le prix du vin. Mechir Yain, c'est le commentaire du Rama sur la Megillat Esther. Sur Esther, dans Perek Tet Pasuk Yutet, il dit qu'étant donné que de toute façon il faut boire à Purim, et que généralement quand on boit, on est amené à faire des bêtises, alors si déjà, dit le Rama, il vaut mieux se saouler, c'est pour ça que les Chayim disent saoule-toi, comme ça au moins tu es honnête dans tes bêtises. Quand tu feras des Averot, tu seras honnête. Ce sera un cas de force majeure, tu es irresponsable. C'est très étrange, mais putain, mais il faut rechercher l'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors il y a d'autres explications plus satisfaisantes déjà. Certains ont dit que lorsqu'on dit « Chayav Nish Levasoumé », c'est les mitzvahs. Les mitzvahs, ça veut dire que c'est pas chova, c'est pas une obligation, c'est bien. C'est un bon truc, c'est facultatif et c'est positif, c'est bien de le faire, mais c'est pas méakev. C'est facultatif, on n'est pas tenu, c'est pas obligatoire de se saouler. C'est comme ça que c'est écrit dans le shoot du Maharil à la fin de Siman Nunvav. Dans le Sefer Maharil aussi, il écrit Daf Samech Amud Alef, le Leket Yoicher, c'était l'élève du Maharil, lui aussi dans Chelek Alef, page 157, le Hagaot Maimoniot au nom du Ravia à la fin de Siman Taf Kuf Samech Dalet, il est ramené aussi dans le Aruch HaShulchan Orachaim Siman Taf Rech Tzadik Hei Siv Dalet. Beaucoup de commentateurs ramènent cette idée, le Knesset Agdola aussi dans les Hagaot du Tour au nom du Maharil. Le Tseid Al-Aderech, il ramène ça aussi dans Mahamar Dalet, Klal Zayn Perek Dalet, et le Elia Rabba qui est ramené par le Biur Alacha, le Chafetz Chaim dans son Mishnah Bura, il y a le commentaire Biur Alacha, il le ramène aussi dans Siman Taf Reish Tzadik He, c'est là-bas qu'il y a le Siman qui dit qu'il faut se saouler. Et c'est machma comme ça aussi du Roche, parce que le Roche écrit dans Megillah Perek Alef Siman Chet, Mitzvah Leishtaker Bepurim Adeloyada. Pourquoi il n'écrit pas Chova Leishtaker, obligation de se saouler? Il dit Mitzvah, c'est bien. Mitzvah, c'est le lachin qui est pour dire c'est bien. Si tu veux, c'est bien, mais tu n'es pas obligé. C'est une bonne chose, mais tu n'es pas obligé. Et les Roura, un autre commentateur aussi devait penser la même chose, c'est le Maharsha. Le Maharsha dans Baba Metzia Rav Gimel Amud Bet, il écrit, là-bas il y a une fameuse Gemara qui dit, Rav Gimel Amud Bet en bas, la Gemara elle dit qu'il y a trois domaines dans lesquels le Talmid Chacham change sa parole, il peut mentir. C'est Maserta, Puria, Ushpiza. Trois domaines dans lesquels on peut mentir. Puria, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire le lit. C'est un kinou pour dire tout ce qui est vie privée. En matière de vie privée, il a le droit de mentir. Si on lui pose une question qui concerne sa vie privée, il n'est pas obligé de déballer sous prétexte qu'on lui a posé la question. Et donc si le seul moyen de s'en tirer, c'est en mentant ou en tournant un peu la vérité, il a le droit. Ça s'appelle vie privée, il a le droit. Okay. Maserta, c'est une marloquet, Rashirambam, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la Anava ou est-ce que c'est autre chose? Et Ushpiza, c'est les invités, pas faire venir tout le monde chez l'autre, etc. En tout cas, sur ce point-là de Puria, le Maharsha, il dit comme ça, Bederech Drash, pas Bederech Pshat. Il dit Puria en araméen, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le lit, mais ça veut aussi dire Purim. Chaya Vinish Levasume, Be Puria. Donc il dit, quand les Chachamim ont dit ça, ils avaient aussi l'intention de dire qu'un Chacham, il a le droit à Purim de mentir quand on va lui demander est-ce que t'es clair, Arur, Aman, Baruch, Mordechai, vas-y, répète pour voir. Il a le droit de faire le comme s'il était ivre, Barur, il ne plus se rappeler, pour qu'on le laisse tranquille et qu'on ne le force pas à boire plus. Ça, c'est l'explication du Maharsha. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'apparemment, il considérait que ce n'est pas une obligation, parce que si c'est une obligation, c'est quoi cette manière de s'en tirer? Donc, tout cela pense que la mitzvah, elle va soumettre, c'est qu'une mitzvah, mais ce n'est pas un chiyuv. Dans le Sha'aret Tshuva, hein, Sharet Shuvah sur Shulchan Aruch, Tafresh Tzadik Hey, Hot Bet, il ramène au nom du Yahabetz. Yahabetz, Rabbi Yaakov Emden, dans son Sidour, il écrit, ça se trouve dans Daf Shin Pei Hey Amud Alef, dans le Sidour du Yahabetz, que son père, le Chacham Tzvi, lorsqu'il était jeune, il avait l'habitude d'accomplir la Memra Kepshuto. Mamash, il se saoulait complètement. Quand il était jeune, il le faisait, il était complètement ivre à Purim. Apparemment quand il était jeune, mais pas plus tard. Donc il n'a pas fait ça toute sa vie. Alors le Yahabetz écrit que celui qui se sent faible et qui ne peut pas le faire, ou bien celui qui craint de faire quelque chose de pas très convenable s'il est ivre, alors il n'est pas tenu de boire jusque-là, juste qu'il boit un peu plus que d'habitude, ça suffit. Vereaya la davar, il conclut, preuve à la chose, je suis en train de dire qu'on n'est pas obligé alors que la Gemara dit Chayav, je vais te dire une preuve, Vereaya la davar, une preuve qui tient en quatre lettres, Riva. Resh Yud Bet Aleph. C'est quoi Riva? Dit le Shaharei Teshuva, c'est quoi cette preuve Riva? C'est Reshut Bet Alef, c'est les Rachet Tevot, acronyme de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est un Tana. Dit le Shaharei Teshuva, ce Tana dit dans le Yerushalmi, c'est un Tana qui parle, dans le Yerushalmi il dit qu'il ne boit pas de vin, si ce n'est de Pessah en Pessah. En fait, il boit que à Pessah pour les Arba Kossot, le reste, il ne boit pas. Maïmashma, dit le Shaharei Teshuva, c'est Kapourim, il ne buvait pas. Donc on voit bien, ça la preuve du Yahabet, il dit, à partir du Rabbi Yehuda Bar Ilai, qu'on n'est pas vraiment obligé de boire à Pourim si on ne supporte pas le vin, parce que ce rabbin-là, il buvait, après il avait des maux de tête terribles. Donc on n'est pas tenu. Il y a deux rabbins dans les Yerushalmi, on cite Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Yona aussi. Un avait un mal de tête jusqu'à Atzeret, jusqu'à Shavuot, et l'autre jusqu'à Sukkot. Alors, il avait 6 mois de maux de tête à cause des Arba Kossot. Donc apparemment, il n'avait pas bu à Pourim, sinon déjà à Pessah, il serait arrivé comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi le Shaharei Teshuva a besoin d'aller chercher derrière les fagots un Yerushalmi pour prouver ça, pour ramener ce Riva. C'est un Yerushalmi dans Masechet Shabbat Perekret Alacha Aleph. C'est Dafnun Dalet Amud Bet, en haut, dans l'Yerushalmi. Je ne sais pas pourquoi il ramène de là-bas, alors qu'on a une Gemara explicite dans le Bavli. Généralement, quand on a une Gemara Bavli, on préfère ramener du Bavli. Dans le Bavli, c'est dans Nedarim, Dafnun Tet Amud Bet, c'est marqué sur Abida Barilai, qui buvait jamais de vin dans l'année, si ce n'est Kidusha Avdalta, le Kidush l'Avdala et les Arba Kossot. Donc on voit clairement qu'il ne buvait pas à Pourim. Je ne sais pas pourquoi il était allé chercher ça là-bas, mais en tout cas, ça se trouve déjà chez nous dans le Bavli, dans Maseret Nedarim. Maintenant, la preuve même du Yahabet, la preuve à partir du Riva, à partir de Rabida Barilai, je la trouve pas géniale. Pourquoi? Très simplement parce que Rabbi Yehuda Bar Ilai c'est un Tana. Et Rava c'est un Amora. Et donc si Rava nous dit Chaya Vinish Levasume Bepuria, c'est qu'apparemment jusqu'à son époque, c'était pas encore bien décidé, il n'y avait pas encore la Takana, obligation de se saouler. C'est seulement depuis l'époque de Rava. Par conséquent, évidemment, à l'époque de Rabbi Yehuda Bar Ilai, s'il supportait pas le vin, évidemment qu'il ne buvait pas à Pourim. On peut pas ramener une preuve à partir d'un rabbin qui a vécu bien avant l'époque de Rava. Voilà, c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait convaincu de la preuve. Quoi qu'il en soit, en tout cas, tous ces commentateurs-là pensent que quand on dit Mechayev Inish Levasume, Afalpi qui a marqué Mechayev, qu'il est Chayav, c'est l'Avdavka. Chayav, ça ne veut pas dire Chayav, ça veut dire c'est bien, mais sans plus. Et c'est très étonnant parce que j'ai vu dans le Shoot Mishneh à la Chod du Rav Klein, Chelek Hei Siman Pei Gimel, il écrit que à chaque fois qu'il y a marqué Chayav dans les paroles des Chachamim, c'est Kepshuto, c'est Chayav et Admesirut Nefesh. S'il y a marqué on est Chayav de le faire, il faut le faire jusqu'à y mettre sa vie. Je sais pas, il y a un rival à avoir, je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire une telle chose. Et en fait, c'est déjà marqué comme ça dans le shoot d'Ivri Yatsiv. Le Divri Yatsiv, c'est le shoot du Rebbe de Cloisenburg Town, c'est le Rav Yekoussiel Yehuda Albertam qui était pendant la guerre mondiale, après il était à Natania, il a fait l'hôpital Lagnado, etc. C'est le Rabbi de Tzantz de Natania, l'ancien Rabbi, le père de l'actuel. Il écrit dans le Divrei Yatsiv, dans deux endroits dans le Shoot Divrei Yatsiv, il écrit ça. Dans Chelek Orachaim Siman Reish Tzadik Zayin, et dans Chelek Likutim Vehashmatot, c'est le dernier tome, à la fin, dans ce tome-là, au début du Siman Samer Vav, il écrit la même chose aussi. Il écrit au nom de son grand-père. Son grand-père, c'est le Divrei Chaim. Divrei Chaim, premier rabbi de Tzantz. Au nom de son grand-père, qui lui-même disait au nom de leur ancêtre commun, le Chacham Tzvi, qu'à chaque fois qu'il y a marqué dans Chazal le mot Chayav, chaque fois qu'on nous dit Chayav de faire quelque chose, le Chiyuv c'est jusqu'à Messirut Nefesh, il faut y mettre la vie aussi, et par conséquent il dit on est bien obligé, désolé, de boire à Pourim, on n'a pas le choix malheureusement, on est obligé de boire à Pourim, c'est obligatoire, c'est marqué Chayav. Voilà, dans Sefer Moshian chez l'Israël aussi, il dit la même chose dans Chelek Bet, page 177, là-bas c'est marqué au nom du Satmer Rouv, que le Satmer Rouv disait ça au nom du Divrei Chaim encore une fois. Donc le Divrei Chaim l'a bel et bien dit, et il est ramené par son petit-fils et par le Satmer Rouv qui était aussi de la famille. Et c'est très étrange parce que c'est contre les Rishonim, c'est contre tout ce qu'on vient de voir, les Rishonim et des Gdolei Acharonim qui disent qu'Afalpi qui a marqué Chayav dans Pourim, c'est pas obligatoire. Pire que ça, on voit des Rishonim et des Acharonim qui disent explicitement que, en tant que klal, en tant que règle, que lorsqu'il y a marqué Chayav, c'est pas du tout systématique que la traduction c'est Chayav comme on l'entend en hébreu moderne. On trouve le mot Chayav et il est Lavdavka, ça veut dire que c'est bien, que c'est important, que c'est Hamour, mais Lavdavka Chayav, le Bartenora sur Pirkei Avot, dans Avot, Pirkei Aleph, Mishnah Yud Gimel. Il est marqué Ketala Chayav, ou des Loyalif, celui qui n'apprend pas la Torah, ou des Loyalif Ketala Chayav, mort, il est Chayav, il est Chayav Mita. Là-bas, Bartenora est dit Kelomar Raoui, il serait apte, mais c'est pas vrai, on ne va pas le tuer, s'il n'a pas étudié la Torah, on va lui couper la tête, ça va. Et il y a aussi un Tosfot dans Bechorot, Dafnun Dalet Amudalet, c'est marqué Chayav Mita. Tosfot vient expliquer Chayav Mita lav dafka, et la Chomer Miderabanan. C'est bien que c'est très grave, mais c'est pas Chayav Mita. Et pourtant c'est marqué Chayav Mita, donc on voit des Chayav qui sont pas dafka. Le Rash aussi dit la même chose dans son commentaire sur les Mishnah au début de Maserhet Maasrot. Le Tosfot Yom Tov et le Melechet Shlomo dans Maserhet Para Perek Yudalef Mishnah Gimel, eux aussi disent la même chose. Le Tiferet Israël sur place dans le Boaz Ot Yudalef. Le Sdechemet dans ses Klalim, sur la lettre Chet, Klal Tzadik Bet, lui aussi dit longuement la même chose que Chayav, c'est pas systématiquement Chayav et ça peut être Lavdavka. Il y a encore beaucoup d'autres qui pensent que le mot Chayav n'est pas toujours à traduire Mamash Chayav. Et donc c'est très étrange. Toujours est-il que même d'après cela qui explique quand on dit Chayav Levasoumé, c'est pas vraiment obligé de boire, mais c'est les mitzvah, c'est bien, on peut quand même rester avec la question, elle est allégée, c'est moins grave, mais quand même c'est étrange. Pourquoi les Chachamim auraient fixé une mitzvah de boire? Même si c'est pas une chova, une obligation, mais c'est une mitzvah, c'est étrange. J'arrête avec tout le mal qu'on a pu dire de l'ivresse, comment est-ce possible? Et là-dessus aussi, il y a beaucoup, chacun a dit quelque chose. On va en ramener 7, encore une fois, parce qu'il y avait 7 lignes. Le Maharal de Prague, dans l'Akdama de son livre Or Hadash, il écrit qu'étant donné que Haman a voulu tuer les corps, le corps de Bnei Israël, il a voulu tuer les corps, pas tuer l'âme. Il n'a pas fait comme les Grecs, il a voulu tuer mamash le corps. Alors c'est pour ça que les Chachamim ont vu de faire une takana pour le corps, hana'at agouf, de boire que ce soit hana'at du gouf. Bon, deuxième explication dans le Seder Hayom de Rabbi Moshe ben Machir de Tzfat, je crois que c'était un contemporain du Beit Yosef, du Rabbi Yosef Karo à Tzfat. Il écrit que Haman a voulu nous tuer, c'est pourquoi les Chachamim, pour garder l'esprit de Vena Aforou, on va faire la même chose, mais en manière positive. Il dit, celui qui boit après, il est ivre mort. Il est Kemet Mushkavartza, il écrit, comme quelqu'un qui est mort, étalé au sol. Et donc ça ressemble à un mort, mais c'est plutôt un côté positif. Ça lui a été plus agréable pour en arriver là que de se faire pendre ou tuer. Il dit, et aussi, Haman a voulu verser notre sang. Et donc, c'est pourquoi les Chachamim ont été métaknim de boire d'afka du vin. On aurait pu se saouler avec autre chose. Rashi déjà disait, les Ifsoumé, c'est les Shtaker Beyaïn. Pourquoi Beyaïn d'afka? Tout le monde se demande d'où Rashi sort Beyaïn. Lui, il dit une idée, le Seder Hayom, c'est que pourquoi du vin? Parce que, en buvant du vin, nocif dam al damenu, on va augmenter notre volume de sang. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça marche, je sais pas si on boit du coca, ça augmente moins le sang que du vin, je sais pas. C'est ce qu'il dit, l'analogie entre le vin et le sang, on pense tout de suite à quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est pas très juif. Je sais pas comment ça marche, Anilo Yodia, je sais pas pourquoi il dit ça, peut-être on pensait comme ça avant, je m'y connais pas là-dedans. En buvant du vin, subitement, on aura plus de sang, le Yodia Mazé. Voilà. Et il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 1997, en France, ils mettaient du sang dans le vin. C'était tout à fait officiel, on met du sang en tant que flocculant, on met dans le vin du sang, pas du sang en liquide, hein, pas du sang humain, rassurez-vous, hein, voilà, sang de bovin, ça rend beau le vin, et on mettait du sang en poudre dans le vin, ça a été interdit depuis l'histoire de la vache folle, mais avant ça, ça se faisait en France encore. Donc voilà, il y a du vin dans le sang. Agnilo et Dabiduk, c'est quoi cette idée-là, on va augmenter le sang. Troisième explication, le Khatam Sofer dans Torah Moshe, Parashat Tetzavé, Dav Gimel Amud Dalet, et aussi dans son livre Drashot, Khatam Sofer Khelek Alef, page 205. Il écrit pourquoi les Chachamim ont été métakin de boire du vin alors que c'est pas très sympathique. C'est pour être métakin la avéra que les juifs ont fait. C'était quoi la avéra des juifs? C'est qu'ils sont allés boire dans le michté de Achashverosh. Et bien pour faire la takana, on va boire, mais cette fois-ci pas avec Achashverosh. Quatrième explication, le Kedushat Levi. Kedushat Levi, donc Kedushat Revit, page Shin Samer Dalet. Il explique que quelqu'un dessous n'a aucune kavana, ni positive, négative, faire du bien, faire du mal. Il est paumé, il ne fait rien, ni du bien, ni du mal. C'est pour symboliser cette idée que Haman a voulu nous faire du mal et en final, ça s'est transformé en bien. Cinquième explication, le Ismach Moshe. Ismach Moshe, il écrit que le tachlit de la mitzvah, le but de la mitzvah, quand on nous dit de se saouler, de boire du vin, c'est pour arriver au niveau qui s'appelle itpashtut agashmiut. C'est un concept très chassidique pour les initiés parmi nous. Itpashtut agashmiut, ça veut dire itpashtut simulation lehafshit, se retirer de ses pensées, de son cœur, tout ce qui est gashmiut, tout ce qui est matériel. Être complètement détaché de la gashmiut pour se coller au bon Dieu entre guillemets pendant une journée. Sixième explication, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il écrit dans Vesisela, il a daf peivav amud alef que chayav levasume. Pourquoi on est tenu de se saouler? Il dit parce que celui qui est sous, il est malé d'imayon, plein d'imagination, il pense à plein de choses, il n'est pas dans une vie réelle, il est plein de d'imayon. Ve en lo marchevet emet klal, il n'a pas de pensée vraie du tout. pas trop ce que ça veut dire, mais vous n'avez encore rien vu, c'est la suite qui est intéressante. Aval, il dit, chez les juifs, Etzel Bnei Israël, même quand il est sous, son dimayon, pas sa pensée, son dimayon, il est émet. C'est apprendre, je ne sais pas ce que ça veut dire, apprendre ou à laisser. Voilà, il parle souvent de cette idée de dimayon, il répète encore ça dans Mershevet Rerutz Ot Dalet. Je ne sais pas c'est quoi cette idée exactement, ce Kolpchat, parce que si Bnei Israël est toujours dimayon, c'est toujours positif, on n'a qu'à se saouler toute l'année aussi. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi l'idée, voilà, j'ai deux idées, comment expliquer, mais bon, c'est hors sujet. Voilà, certains ont expliqué de telle sorte que de nos jours, ce n'est plus applicable. C'était pour l'époque, mais aujourd'hui, il ne faut plus tellement se saouler. C'est l'Abou Daram. L'Abou Daram, il écrit que la raison pour laquelle les Chachamim ont fixé de boire du vin, c'est parce que les Nissim ont eu lieu mitoch mishté ayayin. Il y a eu le mishté de Achashverosh, il y a eu le mishté de Esther. Comme tous les Nissim, tous les points décisifs, tout ce qui s'est passé, les moments importants de la Megillah, les grands tournants, c'était avec un mishté ayayin, c'était autour d'un mishté. C'est pourquoi les Chachamim zecher lanes, ils ont fait cette takana de boire, de la même manière qu'à Hanouka, ils ont fait zecher lanes d'allumer des nérotes. Le nes, c'était les nérotes. Ici, le nes, c'est le pinard. Et donc, en parallèle, on a fait une takana de boire du vin, justement, zecher lanes. Alors, mais il ajoute, au nom du Baal Amin Hagot, c'est Rabbi Asher de Lunel, un Rishon, il ajoute que peut-être les Amoraïm, à l'époque, n'étaient pas habitués à boire beaucoup de vin, et donc, ils se saoulaient très rapidement. On voit bien Rabbi Yona et Rabbi Yehuda qu'on a cités dans les Rushalmi, qui eux ne buvaient pas du tout, peut-être avant ils ne buvaient pas grand chose, et donc ils se saoulaient rapidement. Il dit, mais pour nous qui buvons plus dans l'année, il ne faut pas se saouler à Pourim. Il faut juste boire un peu plus que d'habitude. On pourrait comprendre de là que la mashmaout, c'est que l'essentiel c'est boire beaucoup ou pas boire beaucoup, et peu nous importe le résultat, est-ce qu'il est sous ou pas. Mais ce n'est pas ça. L'idée c'est que si on veut faire un zecher lanes, alors zecher lanes c'est avec la shtia, et je trouve que pour boire une certaine dose conséquente, à l'époque, ça les rendait complètement ivres, et aujourd'hui, non, mais il ne faut pas boire plus qu'à l'époque, c'est ça qu'il veut dire. La même idée se retrouve dans Menorah Tamahor, Ner Gimel, Kaldalet, Rele Gimel, Perek Gimel, que les sages de l'époque n'étaient pas habitués à boire beaucoup de vin, et seulement à Pourim, ils buvaient, et donc ils buvaient à Pourim, Amash, Teshem, Shamaim, c'est parce que durant l'année, ils n'aimaient pas trop ça non plus, ils ne faisaient pas ça pour le plaisir. Mais de nos jours où tout le monde, chacun fait kol yemehem kechagim, on fait la fête tous les jours et on boit, alors il ne faut pas boire excessivement à Pourim, juste un peu plus que d'habitude et c'est tout. C'est marqué la même chose dans le Ochot Raim, ramené dans le Bet Yosef aussi, qu'il faut juste boire un peu plus que son habitude. Le Pele Yoetz dans Dibura Matril Pourim dit la même chose, qu'il faut boire seulement me'at yoter mima she'u lamoud, un petit peu plus de ce dont il a l'habitude de boire. Et il critique là-bas ceux qui se saoulent, il dit c'est pas bien, etc. Dans le Yesod Vesheresh Avoda, dans Shar Yudbet Perek Zayin, il écrit aussi la même idée, qu'il ne faut pas boire trop à Pourim, juste un peu plus que ce qu'on a l'habitude de boire, après chacun selon son habitude. Et le Binah Laetim dans Drush Rafalef aussi, et ce qu'il dit est ramené dans le Shut Mishnat Sakhir, Chelek Bet Siman Reish Lamed Hei Ot Bet, lui aussi dit qu'à Pourim, il faut boire seulement un peu plus que d'habitude, mais en aucun cas se saouler, en aucun cas vraiment boire beaucoup plus. Le Meiri écrit, il est ramené dans le Biur Halacha, dans Simanta Fresh Tzadiké, je vous cite ces mots, Ein anu metsuvim lishtaker, on n'a pas le tzivouy, on n'a pas la mitzvah, lishtaker, de se saouler, ou leafrit atzmeinu, et de nous rabaisser, mitoch asimcha, dans cette simcha, dans Pourim, il n'y a aucune mitzvah de se saouler et de se rabaisser. Shelon itztavinu al simcha shel holelut veshel shtut. On n'a jamais eu une mitzvah d'arriver à une simcha, à une joie de holelut. Holelut, ça veut dire de dévergondage, de voilà. Veshel shtut ou de folie. On ne cherche pas la simcha dans la folie ou dans le dévergondage. Et là, ben simcha shel ta'anouk, uniquement on cherche une simcha de bonheur. Shenagia mitocha le'avat Hashem, dont le but serait d'arriver à travers cette simcha, d'arriver à Ahavat Hashem, d'aimer Dieu. Si quelqu'un sent que lorsqu'il se saoule, il n'aime pas beaucoup plus Dieu avant, après qu'avant, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut se saouler. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il écrit Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, Rahim, Simanta, Fresh, Sadik, Hei, Seif, Bet, il ramène la même ra de Rava texto, Chaya, Vinish, Levasume, Beporiad, Deloyada, etc. Quand on lit Mashma Kepshuto, qu'il faut se saouler. Lecture simple de Shulchan Aruch. Dans son livre aussi Magid Mesharim, dans le Magid Mesharim d'Aflamet Zayin Amud Aleph, aussi un peu avant dans l'Amedé Amud Aleph, il écrit que le Magid lui a dit que à Pourim, tu peux boire autant que tu veux. À Pourim, no limits. Vas-y, tu peux boire, t'inquiète pas, tu peux boire. Parce que là-bas, il le gronde. Le Rav Yosef Karo, il aimait bien boire. Et il encaissait bien, quoi. C'est pas buvait deux verres. Et il le gronde, le Magid, il lui dit, à Shabbat, pas plus que 14 verres. Tu t'arrêtes à 14 verres. Et ça veut dire, quand tu dis à Purim, tu peux y aller, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Donc, apparemment, le Rav Yosef Karo, il devait considérer qu'il faut, qu'on peut se saouler à Purim et qu'il le faut. Et c'est pour ça qu'il ramène la Memra texto. Maintenant, d'un autre côté, du fait que, on sait que le Shulchan Aruch, ça n'a pas été écrit pour être lu comme ça. Le Shulchan Aruch, c'est un résumé de ses conclusions dans le Bet Yosef, dans son vrai livre qui s'appelle le Bet Yosef. Et dans le Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, qu'est-ce qu'il ramène à Halakha? Il ramène le Orchot Chaim. Orchot Chaim qui dit qu'il ne faut pas se saouler, qu'il faut juste boire un peu plus que d'habitude. Le Orchot Chaim explique que quand on dit Chayav Nishlé Vasoumé, ça ne veut pas dire qu'il faut se saouler. Il faut juste boire un peu plus que d'habitude. Bah, c'est comme ça, quand le Shulchan Aruch le ramène, peut-être il ne veut que dire ça. Donc c'est pas clair. Certains ont compris dans le Shulchan Aruch qu'il voulait dire qu'il faut se saouler. D'autres rappellent qu'il a mentionné dans son Bet Yosef le Orchot Chaim et donc concluent que forcément le Rav Yosef Karo ne voulait pas dire qu'il faut se saouler, mais seulement qu'il faut boire un peu plus que d'habitude. Et on ne sait pas trop. En tout cas, le Rama sur place dans Shulchan Aruch, Rama dans Siman Taf Resh Tzadiké, lui il ramène au nom du Maharil qu'il faut uniquement boire un peu plus que d'habitude et après aller dormir. Et grâce au fait qu'il dorme, il pourra accomplir le Had Delo Yada. Parce que lorsqu'il dort, il ne sait pas entre Aro Raman, Bor Mordechai, et quand il dort, il ne sait rien du tout. Le Mishnah Bura sur place écrit Kar Raoui La Asot. C'est comme ça qu'il faut faire, comme le Rama. Il ne faut pas se saouler, il faut uniquement boire un peu plus que d'habitude, aller faire une sieste si on veut accomplir Had Delo Yada, et c'est tout. On dort une demi-heure et on est bon. C'est marqué pareil dans le Pri Megadim et dans le Knesset Agdola à Gaot Bet Yosef, il dit la même chose. Certains ont voulu expliquer le jeu de mots inverse du Maharsha de tout à l'heure. On a dit que pourri en araméen, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pourri, mais ça veut dire le lit. Et là-bas, le pshat, c'était le lit, il voulait dire que c'est pourri. Ici, le pshat, c'est pourri. Certains veulent dire Beremez, l'inverse, que ici, c'est le lit. C'est-à-dire, Chayav Nishlevasoumé, de pourria, Had Delo Yada. Le Had Delo Yada, tu le fais dans ton lit. C'est-à-dire, tu bois un peu, tu vas au lit, tu dors, et là, tu feras le Had Delo Yada. Dans le Nimouké Yosef, sur Megillah, Zayin Amoud Bet, Nimouké Yosef, il n'est pas imprimé autour du Rif. Autour du Rif, dans Megillah, on a le Ran. C'est un livre à part qui a été imprimé assez récemment. Nimouké Yosef, il écrit dans Megillah, au nom du Rambam, un texte qui ne figure pas dans notre Rambam. Quand on regarde le Rambam, on ne voit pas ce texte, mais en tout cas, lui, il le ramène au nom du Rambam. Je vous le cite. Lo sheishtagea beshikruto. Pas qu'il faille délirer dans son ivresse. Vimacher acharei srok vekalutrosh et se laisser aller après la rigolade excessive et la légèreté d'esprit, venivulpe et les grossièretés, la vulgarité. Chez Eloïkare simcha, ça ne s'appelle pas de la simcha. Et la holelout, ça s'appelle holelout. Des vergondages, des circlutes et de la stupidité. Velotiknu neviim rishonim et là les meimar mille de bdichuta, la takana des chachamim c'est uniquement de dire mille de bdichuta, de dire des blagues, de dire des choses rigolotes. Ad des savre inche delo yada bein baruch, etc. La takana des chachamim c'est uniquement de dire des choses rigolotes jusqu'à ce que les gens s'imaginent qu'il est ivre au point de s'embrouiller entre Aru Raman et Baruch Mordechai. Et là, c'est un sacré clin d'œil, un Beit Av très costaud pour ce qu'a dit le Maharsha dans Baba Metzia Rav Gimel, que l'idée d'en fait, on ne veut pas du tout que tu te saoules, on veut juste que tu fasses croire aux autres que, mais tu n'es pas tenu du tout de te saouler. Alors, il y a deux Pirushim, deux Mefarshim qui sont venus ramener, qui ont ramené au nom de Kadmonim une idée, qui consiste à dire que l'Evasoumé, ça ne veut pas dire se saouler. Chayavinish l'Evasoumé, ça serait différent de l'Eishtaker. L'Evasoumé, ça serait se parfumer, être embaumé, être, je sais pas, voilà, légèrement parfumé de vin, mais pas rond, mais pas ivre. C'est qui? Le Netivot Amishpat, le Netivot, il ramène dans l'Akdama de son livre Megillat Starim, il a écrit un livre Megillat Starim, dans la préface, il dit, au nom du Arour, l'Arour de Rabbi Nathan de Rome, donc un contemporain de Rashi, au nom du Arour, qu'il y a une différence entre l'Evasoumé et l'Ishtaker. L'Evasoumé, ça veut pas dire se saouler. Et donc, même quand l'Akdama dit Chayav Nishlé Vasoumé, ça n'a jamais voulu dire se saouler. Juste, il faut boire un peu, c'est tout. C'est comme ça qu'il veut dire. Le problème, c'est que quand on regarde dans le Harour, il est marqué l'inverse. Il dit que le Harour dit ça, mais c'est pas vrai. Le Harour, il est marqué sur les Vasoumé, il dit Pirouche, Lachon, Chikrout. Il dit explicitement que c'est Chikrout, c'est se saouler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, exactement comme Rashi, comme Rabbeinu Hananel, comme Rabbi Avraham Minahar, qui, tous trois, ont expliqué que les Vasoumé, ça veut dire se saouler. Le deuxième, c'est le Yesod Veshoresh Avoda, Char Yudbet Perexain. Lui, il ramène au nom du Harizal. Que l'Evasoumé, ça ne veut pas dire se saouler, c'est moins que ça, et on n'a pas dit Chayav Nishlé Ishtaker, on a dit seulement l'Evasoumé. Alors là aussi, il y a un problème, c'est quand on regarde dans Shara Kavanot, Daf Kouftet Amoud Dalet, dans l'ancienne édition, dans le nouveau, c'est Chelek Bet Page, Shin Lamed Gimel, il dit clairement, Ishtaker Veyetse Midato. Il faut qu'il se saoule et qu'il sorte de son esprit, qu'il perde complètement les pédales. Ne me dis pas que ça veut dire non, juste boire un petit peu, c'est pas vrai. Donc encore une fois, on est embêté et il est ramené dans le Kafachaim, il ramène ça le Kafachaim au nom du Harizal, qu'il faut vraiment se saouler, Veishtaker, Veitsemidato, dans Siman Tafresh Sadik et Ot Tetzaim dans le Kafachaim. Alors cependant, le Shla vient un peu temporiser cette idée, c'est pas vraiment 100%. Le Shla, il dit Shla Kadosh dans, à la fin du Hilchot Purim, il écrit que ça c'est uniquement les Habaim Besodo, pour ceux qui partagent les secrets du Harizal. Ça veut dire en d'autres termes que seul un kabbaliste pourrait se saouler, mais les autres non. Et le Shla lui-même, il écrit dans Shahar Otiot, Daf Peidal et Amudbet, Ashre, Michelo et Ashikor Miyamav, heureux celui qui n'a jamais été ivre durant toute sa vie. Donc apparemment, voilà quoi, Harizal ok, mais vas-y mollo quand même. Alors après ça, j'ai vu qu'en fait c'est pas si simple, parce que dans le Harizal, il y a une contradiction. Lui-même, il écrit, dans Shahar HaKavanot, le Harizal écrit que, clairement, ce qu'a dit le Yesod Veshoresha Avoda, qu'il faut l'Eit Bassem et pas l'Eishtaker. Alors comment d'un autre côté, il a pu dire qu'il faut l'Eishtaker, Veyetse Midaato, c'est pas clair. Alors peut-être la Kavana c'était uniquement d'exclure Shikruto Shellot, ça veut dire une ivresse excessive, je sais pas. Dans le shoot, il y a Gel Yaakov de Rabbi Yaakov Gottlieb, en Chelek Alef Simanun Gimel Ot Gimel, il s'occupe de ça, il est dan dans cette stira, et il veut dire que, en fait, le Harizal lui pensait qu'il fallait se saouler, parce que c'est marqué Ishtaka Veyetzimidato, et c'est le Maharhur Abraham Vital qui a repris ses écrits, qui a ajouté que celui qui n'arriverait pas à se saouler, pour qui c'est trop dur, alors au moins qu'il soit mit basem, au moins qu'il fasse ça. C'est très joli, mais dans les mots, ça rentre pas du tout. Et il y a un autre pirouche bien plus sympathique et bien plus probable, de Rabbi Moshe Tsuriel. C'est un contemporain, il habite à Bnei Brak, Rechov Bet Hillel 13. Quand je vais en Israël, j'aime bien aller le visiter, il est très sympathique, c'est un rabbin d'une béquille phénoménale et d'une humilité incroyable, quasi incompréhensible. Rabbi Moshe Tsuriel, il écrit, à la fin de son Leket Pirouche Agadar Chelek Bet, il écrit un Mahamar sur se saouler ou pas se saouler à Purim, et il dit, c'est très simple, ces lignes, ah, il y a une contradiction dans le Harizal, et chacun ramène, voilà, on a vu le Kaf HaChaim, il ramène que le Harizal a dit, il faut se saouler, Veyetse Midaato. Il dit, désolé Kaf HaChaim, il s'est trompé. Ces lignes-là ne sont pas du Harizal. C'est dans le livre du Harizal, mais c'est pas lui. Et d'où est-ce que je le sais? Très simple, il dit, regarde un peu plus haut, c'est marqué dans l'édition moderne, c'est Chelek Bet, une page avant, Shin Lamed Bet, en bas, à la fin du premier tor en bas. Là-bas, il dit, c'est marqué Mefourash dans le texte même du livre du Shahar HaKavanot. C'est marqué Atkan Higiyu Drushe Harav Zalaha. Jusque-là arrivent les Drushim du Rav. C'est qu'en fait, c'est pas le Harizal qui a écrit son livre, c'est le Maharhu et son fils qui a repris, qui n'est pas écrit. Il dit, voilà, jusque-là, c'est les Drushim du Harizal. Et il reste après encore une page et demie jusqu'à la fin du livre. Cette page et demie, c'est un petit drouche qui a été ajouté par un imprimeur, par je ne sais qui, par un autre, un élève, mais pas par le Harizal lui-même. Et c'est là-bas qu'il a marqué, c'est la page suivante, où il y a marqué Ishtaker Veyetse Midaato. Donc dit le Rav Tsuriel, c'est clair, le Harizal n'a jamais dit ça, puisque dans son livre il dit il ne faut pas se saouler, il faut juste boire un peu, mais pas être saoul. Et à la fin du livre il y a marqué ça, mais on voit clairement que ce n'est pas lui qui le dit. Et les gens qui l'ont ramené en son nom, ils n'ont pas fait attention à ce détail. Et en fait, donc, selon le Harizal, il ne faudrait pas se saouler. Alors, il n'y a pas que Rashi, le Harouch, Rabbeinu Hananel et Rabbi Avraham Inar qui pensent que les Vassoumé, ça veut dire se saouler mamash. Il y a aussi Rabbeinu Yerucham, dans Netiv Asiri, Chelek Bet, Dav Samer Bet, Emot Gimel, et le Marzor Vitri. Marzor Vitri, c'est Rabbeinu Simcha, c'est un élève de Rashi. Dans Siman Tav Samer Hei, il écrit, il fait des jeux de mots là-bas, il dit Leil Shikorim Ze Alaila, il fait un jeu de mots sur Leil Shimurim à Pessah, il dit Leil Shikorim, c'est la nuit des ivrognes cette nuit-là. Beleil Ze Yishkeru Kol Yitzurim, au lieu de Yizkeru, il dit Yishkeru, que se saoulent toutes les créatures, etc., etc. Bref, donc apparemment, il pense qu'il fallait vraiment se saouler. À part que c'est un peu étrange qu'il parle de la nuit, et ça, la nuit, man de karchmé, on n'a jamais dit qu'il fallait se saouler la nuit. Adra balagmara, dans Megillah Zenemutbet, elle dit que Seudat Purim Shachla Balaila, le Yassai de Chovato, celui qui fait la Seudat Purim la nuit, le soir de Purim, il n'est pas quitte, il faut faire le jour. Or, se saouler, c'est que dans le cadre de Mishté Vesimchat, dans le cadre du Mishté. Le Mishté, c'est le jour. Celui qui fait le Mishté le soir, il n'est pas quitte. Donc, c'est sûr que le soir, on n'est pas tenu de se saouler. Et donc celui qui se saoule le soir, c'est comme s'il se saoulait à Shavuot, il n'y a aucun rapport, comme s'il se saoulait après un autre jour. Donc c'est pas très clair, je ne sais pas pourquoi il parle de la nuit. Mais en tout cas, même si certains n'acceptent pas et disent que les vassoumés, ça veut dire se saouler, c'est un fait que le chilouk s'entend, on entend la différence, on peut dire, il n'y a pas marqué chayav l'ishtaker, mais les vassoumés, surtout qu'il y a un autre terme en araméen, les ravés, pour dire se saouler mamash. Et là-bas, il y a marqué levasoumé. Dans la Gemara, apparemment, levasoumé, ça ne veut pas dire se saouler. Et donc, ce chilouk, même si ce qu'a dit le Netivot au nom du Harouch est faux, puisque le Harouch ne dit pas ça, malgré tout, beaucoup de Kadmonim, des Acharonim disaient déjà ce chilouk-là. Le Maharitz, ramené dans le Pisquet Tshuvot, dit ce chilouk aussi. Le Knesset Agdola, dans la Hagot Bet Yosef. Il y a aussi le Chidushé Harim. Chidushé Harim, c'est le Rabbi de Gour, premier Rabbi de Gour. Il est ramené dans la Askama du Pisquet Tshuvah Chelek Alef. Puis je dis bien Pisquet Tshuvah, pas Pisquet Tshuvot. Hein. Pisquet Tshuvah, c'est un livre plus ancien, 1930, 34, je ne sais plus dans ces eaux-là, de Rabbi Avraham Pietrekovski. dans la, c'est un Chassid Gour qui a écrit un petit sefer, un petit recueil de responsables, un petit morceau de responsables très intéressant. Et il demandait au rabbi de Gour d'écrire une askama. Et le rabbi de Gour, c'était un très grand baki, et donc il loupait rien, il lisait tout avant de donner une askama. Il lisait tout, il venait ses notes. Il a donné une note au nom de l'ancien rabbi de Gour, dans le Chidush Harim, et où il dit la même chose que les Vassoumé et les Ishtaker, il ne faut pas mélanger ces deux choses. Le Korban Netanel aussi dans Megillah, premier chapitre, Siman Chet Otyut, il dit la même chose que les Ishtaker, les Vassoumé, ça ne veut pas dire se saouler. Il est un peu gêné du fait que Rashi le dit, donc il dit Loulé, dit vrai Rashi qui a expliqué comme ça, moi j'aurais dit différemment. Le Shla, Dafshin Khaftet Amoudbet, et le Chida dans More Be'etzba, Ot Shinzein. Tout cela pense qu'il y a une différence entre les Vassoumé et les Ishtaker. Même dans les Rishonim, déjà avant ça, on trouve cette distinction. Le Orchot Chaim, dans le Orchot Purim, Siman Lametret, déjà dit que les Vassoumé, c'est pas les Ishtaker, il les ramène dans le Bet Yosef, Siman Tafresh, Tzadiké. Et le Kolbo aussi, à la fin de Siman, même. Et en fait, le Orchot Chaim et le Kolbo, c'est plus ou moins le même Sefer. C'est deux Sfarim, mais pratiquement tout ce qui est marqué dans l'un est marqué dans l'autre. Des fois, c'est vraiment paraphrasé. C'est deux Sfarim frères jumeaux. Voilà, on ne sait pas trop comment ça se fait. Le Shema Gdolim du Chida dans Chelek Bet, Otraf Siman Yudalet, il écrit sur le Kolbo, qu'on ne connaît pas l'auteur du Kolbo. Il dit, mais généralement, il copie ce qui est marqué dans le Orchot Chaim. C'est comme ça, on constate que c'est les mêmes idées sont ramenées, les mêmes phrases. C'est machma comme ça aussi dans le Kesef Mishneh du Rav Yosef Karo, dans Ilchot Shofar Perek Alef Halakha Alef, que le Kolbo copie ce qui est marqué dans le Orchot Chaim, et toujours dans ce sens-là et pas dans l'autre. On pourrait penser que c'est le Orchot Chaim qui a pompé du Kolbo. Non, tous disent que c'est le Kolbo qui a pompé du Orchot Chaim, alors qu'on connaît pas vraiment la date de rédaction du Kolbo, pour savoir s'il était avant ou après le Orchot Chaim. Mais logiquement, il était après, et on sait pas qui est l'auteur. Il y a dans le Mavo de Rav Moshe Schlesinger, il a écrit un Mavo, une sorte de préface, non, c'est plus que ça. Comment ? Introduction ? Ouais, on va dire ça. Enfin, un Mavo scientifique, ça veut dire pas juste introduction, coucou les amis. Oui, il est Dan, il est Rocker, c'est quoi ce Sefer, etc. Il a écrit un Mavo sur le Orchot Chaim, et il parle de ça là-bas. Il y a aussi un Mavo sur le Kolbo, sur la nouvelle édition du Kolbo, de Reb Shlomo Zalman Havlin. Lui aussi, il parle de ça, de savoir quel Sefer a devancé l'autre, et c'est quoi ce Kolbo, d'où il vient ce Sefer Kolbo, puisqu'on ne sait pas qui est l'auteur, alors pourquoi il a copié simplement le Orchot Chaim. Bon, voilà, toutes sortes de questions comme ça. Quoi qu'il en soit, d'après tout ça, il ressort que... Il reste une question quand même. On a expliqué maintenant tout cela. On dit que les Vassoumé, ça ne veut pas dire les Ishtaker. Super. Et donc, on sort du problème. Dire comment c'est possible que les Chachaim ont dit qu'il fallait se saouler. C'est qu'ils n'ont jamais dit qu'il fallait se saouler. Ils ont juste dit qu'il fallait bien boire, mais pas se saouler. Mais si c'est comme ça, comment on comprend la suite de la phrase? On a dit Chayav Nish les Vassoumé, mais pour Ya, Ad Deloyada. Comment on arrive au niveau de Ad Deloyada, de s'embrouiller entre Arur Haman et Baruch Mordechai, en buvant un petit peu? C'est pas possible. Mais la vérité, c'est qu'on ne sortira pas du problème, même pour les autres aussi, parce que il y a la question que pose le Bach dans Siman Tafresh Tzadik Hei. Il dit, même quelqu'un qui boit toute la journée, du matin au soir, il n'en arrive pas à s'embrouiller entre Arur Haman et Baruch Mordechai. J'ai déjà testé, pas sur moi-même, mais testé sur d'autres, qui étaient vraiment ronds, mais alors l'étape d'encore un verre et il s'est allé par terre. Et je posais la question, c'est Arur qui, Baruch qui? Alors il réfléchit et tout, etc. Mais c'est Arur Haman, c'est clair. C'est des choses sur lesquelles on ne se trompe pas. C'est comme les couleurs, noir ou blanc ou vert. On ne se trompe pas sur les couleurs quand on est ivre. Ça n'existe pas. Peut-être ça existe au moment où il tombe par terre, il s'effondre, il ne peut plus parler et plus respirer. Mais de toute façon, jamais un type va se tromper. Donc dit le Bar, ça n'existe pas cette idée-là. C'est quoi cette histoire de se tromper entre Arur Haman et Baruch Mordechai? Ça n'a pas de sens. Et bien, c'est une question que tout le monde s'est posée. Le Maharsha parle de ça déjà. Et il y a beaucoup de réponses, mais comme on n'a pas le temps, je vais en citer seulement 10. C'est pas une blague. La première réponse, le Yesod Veshoresh HaAvoda qu'on a déjà cité, il dit que cette idée d'intervertir entre Haman et Mordechai, ça arrive à ceux qui parlent beaucoup sans faire attention à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Eh bien, ce qu'il veut dire avec ça, c'est que la kavana des Chachamim n'est pas de dire que lorsque la personne qui a bu essaye de dire Arur celui-là ou Barur celui-là, et hop, et elle se trompe. Non, c'est pas lorsqu'il fait attention et qu'il se concentre. C'est en parlant, sans faire exprès. Il a beaucoup bu, et donc il parle, il parle, il parle. Et en parlant, on peut se tromper. Donc on voit bien que, sans quoi ça aurait été incompréhensible, comme l'avait dit le Bar. C'est uniquement cela, et c'est très simple. Il faut dire apparemment la même chose dans le Tzedal Aderech, apparemment il pense la même chose. Mahamar Dalet Kalzain Perek Dalet, il écrit que il faut être Tzarech Leit Basem Beyaïn, il faut boire un petit peu comme ça de vin. Sheishte Yoter Mishar Yamin, boire plus que les autres jours. Ad Shelif Amim, et jusqu'à ce que parfois ça puisse lui arriver de se tromper et d'inverser Arur, Baruch, etc. Donc apparemment c'est la même idée aussi. Deuxième réponse, deuxième explication. Et cette explication a été donnée par au moins une bonne dizaine de commentateurs, le Abu Daram, le Maharil d'Afsamer Hamoud Aleph, il est ramené dans le Maté Moshe Siman 1012, le Aguda dans Megillah Siman Vav, ramené dans le Darke Moshe Siman Taf, Resh Tzadik Heot Aleph, et dans le Maharil qu'on a cité aussi, le Rabbeinu Yerucham Netiviut Relek Aleph, il est ramené dans le Darke Moshe aussi, le Magen Avraham, le Bach, le Bayer Etev, le Chochmat Manoar sur place dans Megillah. Tout cela explique que Ad Deloyada entre Aro Raman et Baruch Mordechai, c'est quoi? C'est calculer la gématria de ces deux phrases. Aro Raman, c'est gématria 502, Baruch Mordechai aussi. Pour faire le calcul, pour vérifier si tous les deux c'est bien 502 et ça fait 1004, pour ça, il faut être un petit peu clair. Celui qui est sous, il a du mal à faire le calcul de gématria et c'est de ça qu'on parle. Pas intervertir Baruch celui-là et Aro celui-là. Troisième explication, le Bach au nom du Tzedal Aderer, et le Knesset Agdola aussi dit la même chose, que ne pas savoir lequel des deux devance l'autre. Est-ce qu'il faut dire Arur Aman Baruch Mordechai ou bien Baruch Mordechai Arur Aman? Mais bon, la vérité c'est que même sans boire, je vous demande lequel il faut dire en premier, je ne sais pas. Et il y a un problème parce qu'on a différentes versions. Dans la Gemara, telle qu'on l'a devant nous, ce n'est pas la version d'origine. Et c'est aussi ce qu'on a dans le Shulchan Arur, ça commence par Arur Aman. Mais le Rif, lui, commence par Baruch Mordechai. Alors voilà, ils n'ont pas bu et pourtant on ne sait pas, donc c'est un peu étrange. Ça c'était la troisième explication. La quatrième, le Meiri. Et le Tosfot dit la même chose, Tosfot Megillah Zayin Amud Bet, il est ramené dans le Bet Yosef et encore dans beaucoup d'autres livres, que la Kavana c'est comme ce qui est marqué dans l'Yerushalmi, c'est qu'il y a une suite en fait. Il y a une suite, c'est pas juste Baruch Mordechai et Arur Aman et point final. Non, il y a aussi la suite Arur Azeresh, Brucha Esther, Arurim Kol Arshaim, Brucha Kol Tzadikim, il y a toute la suite à dire. Donc il faut arriver à dire tout, pas à dire juste les deux premiers. C'est sympathique, mais j'arrive pas à voir comment il comprend la phrase. Il y a marqué Bein, Arur Aman et Baruch Mordechai. Bein, ça veut dire entre celui-là et celui-là. Ça veut pas dire, on n'a pas dit jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à réciter Arur Aman Baruch Mordechai, mais qu'il n'arrive pas Bein, entre celui-là et celui-là. Donc ça n'a pas l'air de coller génial. Cinquième explication, Sefer Eshkol Siman Chet, le Abu Daram aussi, le Dar Kemoshe au nom du Minhagim, et le Khatam Sofer au nom de son Rav, Rav Nos Nadler. Et le Rachash aussi, ils ont une très jolie explication. Ils disent qu'à leur époque, il y avait un piyut. Un piyut, ça veut dire un petit chant, quelque chose qu'on chante lors des fêtes. Et pendant le Mishté de Purim, ils chantaient une petite chanson. Et à la fin de chaque phrase, de chaque vers, il fallait compléter avec soit Arur Aman, soit Baruch Mordechai. Il y avait des phrases, ça se terminait avec Arur Aman, d'autres par Baruch Mordechai. Et celui qui a bu, il n'est pas clair, il ne se rappelle plus quelle phrase, comment on termine cette phrase-là. Et c'est ça l'idée, qu'il ne sera pas Bein Arur Aman et Baruch Mordechai, il ne saura pas lequel choisir entre les deux. Sixième explication, le Réma de Fano, dans son livre El Fassiz Zuta, ramené dans les Zichron Moshe du Chida, et aussi dans le Marzik Bracha Siman Taf Rech Tzadik Hei Sivkot Gimel. Il écrit que la kavana, c'est de ne pas pouvoir distinguer à l'oreille entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Il dit pourquoi? Shem krovot bemifta lehamon chogeg. C'est très proche quand on écoute Arur Aman, ça ressemble à Baruch Mordechai pour les fêtards. Amon chogeg, ça veut dire ceux qui font la fête. Alors vraiment, tzarich biur, parce que si ça s'appelle très proche, qu'est-ce qu'on appelle éloigné? Baruch Aman, Arur Mordechai, même si on inverse, ça marche pas. J'arrive pas à voir comment on peut dire. Qu'on dise Arur Mordechai ou Arur Aman, de toute façon, ça ressemblera pas l'un à l'autre. Quand on dit Baruch Mordechai et Arur Aman, ça ressemble pas. Donc je sais pas c'est quoi ce pshat. Septième explication, Chochmat Manoar sur place dans Megillah Zayin Amud Bet, il explique que c'est un machal. Il dit faut pas le prendre à la lettre, il faut qu'il dise Arur celui-là ou Arur celui-là. C'est un machal de mélanger le Arur et le Barur, c'est-à-dire enlever, retirer de son cœur toute haine, toute jalousie qu'il pourrait ressentir à l'égard d'autrui. Il dit aujourd'hui on oublie tous les griefs, toutes les disputes, aujourd'hui on est copains avec tout le monde. Ce serait ça l'idée de mélanger les deux. Huitième explication, le Bina Laetim à la fin de Drush Raf Aleph. Il explique, Ad Deloyada c'est quoi? Jusqu'à ce qu'il ne sache pas faire la distinction, voir quel est le plus grand Ness entre les deux, entre Mapalat Aman et Gdulat Mordechai. Quel était le plus grand Ness? La chute de Aman ou l'ascension de Mordechai? Pas évident, la vérité c'est que même sans boire c'est pas évident. Et le Gaon de Vilna aussi dit la même chose dans le Biur HaGra sur Achaim Simanta Vresh Tzadik He. Il explique aussi comme ça la même explication. Neuvième explication, le Yad Ephraim. Rabbi Ephraim Zal Margulies, il dit dans Shulchan Aruch Simanta Vresh Tzadik He, qu'on lui a dévoilé Bechezion Laila, une vision nocturne, apparemment un rêve, que la kavana de Ad Deloyada, c'est Ad Velo Ad Bichlal. C'est vrai que dans la Gemara, toujours quand on dit Ad, en français, quand on dit tu vas jusqu'à ça ou tu comptes jusqu'à 50, ça veut dire 50 inclus. Mais on pourrait imaginer, tu comptes jusqu'à 50, ça veut dire jusqu'à 49 en fait, et tu dis pas 50. Ok? Alors, en français, quand on dit jusqu'à, c'est ad bichlal, c'est inclus. Mais dans la Gemara, c'est pas si évident. Des fois, il y a des phrases et le ad en question, le jusqu'à, voulait dire jusqu'à, mais exclu. Et donc, ad d'Eloyada, le niveau d'Eloyada, il est exclu. On n'est pas tenu d'arriver jusque-là. La même explication est donnée dans le Korban Etanel, Siman Chet Otiud, ad velo ad bichlal, pareil dans le Hagaot Marsham sur le Chas, Megillah Zayin Amudbet, la même chose dans le Sfatemet aussi, Megillah Zayin Amudbet, que tant qu'il n'est pas arrivé au Shiur de l'Oyada, il a encore une mitzvah de boire. Mais pas qu'il y ait une mitzvah d'arriver au Shiur de l'Oyada. Tant que tu n'y es pas arrivé, tu continues à boire. Mais il n'y a pas une mitzvah d'y arriver. La même chose on retrouve dans le Emek Bracha de Rabbaye pour Manchik, Emek Bracha dans page Kuf Chaf Vav, c'est un sefer très sympathique, très intéressant. Il y a une seule édition, il est grand, marron et fin comme ça. C'est un jeune rav qui était très prometteur. Son rav c'était le Briskerov, c'est un élève du Briskerov, il avait dit sur lui, donc c'était un jeune rabbin en Lituanie, il a fait sa alia en Israël et il est mort, c'était avant-guerre tout ça, hein, et il est mort. Bizarrement, subitement, comme ça, un matin, il ne s'est pas réveillé. Il avait 34 ans. Il avait écrit déjà deux sfarim, enfin un sefer et demi, et l'autre, il était en voie d'eux. C'est Torah Zreim et Emek Bracha. C'est un gaon atsum phénoménal, et mamache d'une clarté et d'une titre très sensé et très sympathique. Et ce qui est intéressant, c'est que le Briskerov avait dit sur lui de son vivant, pas en tant que espèce, vous savez, une fois qu'il est mort, Haremot, Kedoshim est mort, on dit, allez, c'est parti. Mais là, vraiment pas en tant que espèce, de son vivant, il disait sur lui, regardez-le bien, c'est le Hafetz Reim de la future génération. Et à l'époque, il faut savoir que dans la tête des Lituaniens, Hafetz Chaim, ça veut dire le super méga tzadik, doublé du super méga talmid raham. Il y a le tzadik qui est tzadik, il y a le talmid raham qui est talmid raham, et il y a celui qui arrive à jumeler les deux. L'exemple chez les Lituaniens, c'est Hafetz Chaim toujours. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire beaucoup. C'est que c'était un très grand tzadik et un très grand talmid raham. Malheureusement, il est mort à 34 ans, et donc on n'a pas pu mériter d'avoir ce grand tzadik parmi nous. En tout cas, il écrit dans un Emek Bracha, au nom de Rabbi Israël Salanter. La même idée, que la mitzvah c'est uniquement d'être mitbassem, de boire, et on est dispensé de la mitzvah uniquement s'il arrive à un état d'ébriété qui fait qu'il ne sait plus entre Arour, Aman, Baruch, Mordechai, il est paumé, c'est que là déjà tu dois t'arrêter, à ce moment-là tu n'es pas tour de continuer la mitzvah de boire. Dit comme tout un quelqu'un d'ivre, il est pas tour de la mitzvah, comme un fou. Un fou il est exempt des mitzvot, il n'est pas tour de la mitzvah, il est fou, Dieu ne lui demande pas. Pareil s'il est ivre, Dieu ne lui demande pas. Et donc en fait ce qu'il veut dire c'est que ad deloyada c'est pas un shiur dans le kiyum de la mitzvah, ad deloyada c'est un shiur dans le ptour de la mitzvah, c'est-à-dire que c'est pas une indication sur l'accomplissement de la mitzvah, c'est sur son exemption, dans quel cas on est exempté de la mitzvah. Ce qui est un peu difficile dans cette chita, c'est que c'est comme ça pourquoi on a dit ad deloyada entre Arur Aman Baruch Mordechai, on aurait plutôt fait dire chayav nishlevasume ad hashikrut jusqu'à l'ivresse, point final. S'il fallait s'arrêter avant. Apparemment, il y a deux niveaux dans Shikrut. Il y a Shikrut et il y a Shikrut Upgrade. La même idée se retrouve dans le Ktav Sofer aussi, le fils du Khatam Sofer. Le Ktav Sofer, dans son commentaire sur Megillat Esther, il explique aussi Ad Velo Ad Bichlal. Et il y avait un Rishon aussi qui disait ça. C'est Rabbeinu Meir Ameili, dans Sefer Ameorot, Megillat Zayin Amud Bet, Ad Velo Ad Bichlal, donne ça en tant que première explication. Et il donne une seconde explication, et ça sera la nôtre, la dixième. Dixième explication, Inami Lashon Havai. Bien, je peux encore te dire, c'est une exagération. Les rabbins, ils ont exagéré. Ils ont dit, il faut se saouler, ad deloyada. Mais c'est exagéré, bien sûr, c'est pas la peine d'arriver jusque-là. Il dit, kede amrinan, comme ils disent, dibrou, chachamim, lachon, havaï, que les sages, ça leur arrive parfois d'exagérer. C'est marqué dans la Gemara, tamid, chavtet, amoudalef. Il y a une idée similaire dans Beitza, davdalet, amoudalef, que les chachamim, des fois, ils font usage de gouzmaot, d'exagération. Aujourd'hui, ça choque l'esprit scientifique que l'on puisse faire usage d'exagération, mais à l'époque, ça se faisait et ça avait son côté positif. Ça permet de faire passer plus qu'un chiffre mathématique, mais aussi une idée et un sentiment. Et donc, beaucoup de rishonim écrivent ça, de rishonim et d'achronim, ad belidai, surtout dans les chiffres, 300 et tous ces chiffres-là. Le Rashbam, dans Psachin, Kufyutet, Amudalef, il dit qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre supérieur ou égal à 300, c'est une gouzma, c'est une exagération, etc. Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, dit le Rabbeinu Meir Ameili, la shikrut, l'ivresse, c'est sûr que c'est un issur chamour, ve'en lecha avera gdola, il n'y a pas un péché plus grave que ça. C'est le péché le plus grave qui existe dans la Torah, dans les 613 mitzvot, le plus grand péché, c'est s'enivrer. Comme ça qu'il écrit. Apparemment, lui aussi, il a fait usage un petit peu de gouzma et d'exagération, parce que Afalpik et d'autres qui écrivent ça, le Orchot Raim aussi écrit ça, le Orchot Raim dans le Orchot Purim Siman la Maitrette, il les ramène dans le Bet Yosef, et le Kolbo, encore une fois, il dit la même chose à la fin de Siman Memhe, que c'est la Avera la plus grave, c'est se saouler. Mais beaucoup de Rishonim, et beaucoup de acharonim ont écrit sur beaucoup de mitzvot ou sur des midot ra'ot que c'est la chose la plus grave, la mida la plus grave, et même certains se sont permis de dire ça sur deux midot ou sur deux averot. Donc apparemment, il faut comprendre avec un pas de recul que signifie la plus grave. 11e explication, on avait dit 10, mais on va redonner une 11e. Explication, le pshat de Rav Simcha Kook, qui dit que Ad de lo yada, ça ne se rapporte pas sur Levasoumé, mais sur Inish. Il y a marqué Chayav Inish Levasoumé Ad de lo yada. Inish, c'est un homme est tenu de Levasoumé Ad de lo yada. Okay? Nous, on comprend que le Shiur Ad de lo yada, jusqu'à ce qu'il ne sache pas, ça se rapporte à la boisson. Comment la boisson Ad de lo yada. Il dit non, ça se rapporte à Inish. Quel homme doit se saouler Ad de lo yada. Jusqu'à, on parle ici, jusqu'à un homme qui ne connaît pas la différence entre Aman et Mordechai. Il ne voit pas la différence. Donc, Amaretz Gamour, il ne connaît rien. Il ne connaît même pas l'histoire de Purim qu'un enfant connaît. Il ne connaît absolument rien. Malgré tout, lui aussi, il doit se saouler à Purim. C'est un grand chidouche. À quoi ça correspond de se saouler à Purim, si on ne sait rien. Il s'est ramené ce pshat-là au nom du Reb Simcha Kook dans Sefer HaMoadim de Levinsky sur Purim, page 156. C'est machma un peu la même chose dans le shoot Tirosh Veitzhar de Reb Tzvi Yecheskel Michelson dans Siman Kuf Hei Ot Hei, que Ad de Loyada se rapporte sur Inish, pas sur Levasoumé. En tout cas, il ressort d'après eux que même le Amaretz Gamour, celui qui ignore tout de la Torah, lui aussi doit se saouler. Alors que dans le Shoot d'Ibrot Eliyahu de Rabbi Eliyahu Abergel, dans Chelek Gimel Orachaim Siman Yud, il écrit que Stam Anashim, des gens classiques, des gens normaux, assourd de se saouler. Ils n'ont pas le droit de se saouler. Qui est-ce qui doit se saouler? Uniquement celui qui est particulièrement Yireh Hashem. Celui qui craint Dieu, lui, il doit se saouler. Les autres, non. Il dit, même un Ben Torah, même quelqu'un qui est impliqué dans l'étude de la Torah, s'il sait qu'il peut arriver à Holelout, à quelque chose à déraper un petit peu, assourd, il ne faut pas se saouler. Donc c'est un match l'inverse de ce que dit le Tirosh Veitzhar, qui lui disait que même Amaretz doit se saouler, c'était pas le seul, le Shoot Veitzbor Yosef, Rabbi Shvar, celui aussi dans Siman Ayin Alef Ot Gimel, lui aussi dit que le Amaretz doit se saouler. Et au contraire, on voit l'inverse dans le Chemdat Aryeh de Barry Rosenbaum. Chemdat Aryeh dans Ilchot Megillah Perek Chaf Ot Bet dit qu'un Talmid Chacham ne doit pas se saouler. C'est Davka celui qui n'est pas Talmid Chacham qui doit se saouler. Mamash, l'inverse de ce que dit Dibrot Eliyahu. Il dit parce que le Talmid Chacham, s'il se saoule, il va après s'humilier et en même temps humilier la Torah. Ça va pas, il faut pas. Maskanat Advarim, qu'est-ce qui ressort? On a une Machloket Rishonim. Au niveau du Shulchan Aruch, on a deux lectures possibles. Puisqu'il ramène la phrase, mais d'un autre côté, il a ramené le Ochot Chaim dans le Bet Yosef. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Certains l'ont compris comme ci, d'autres comme ça. Le Rama, en tout cas, lui est clair. Résultat, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc il y a eu des rabbanim qui ont bu, d'autres qui ne buvaient pas. Il y a eu dans l'histoire deux catégories. Les rabbins qui buvaient, et ceux qui ne buvaient pas. On a dit déjà sur le Chacham Tzvi que dans sa jeunesse, il buvait comme son fils le ramène dans son Siddur d'Afshin Pehe. Chacham Tzvi buvait dans sa jeunesse, mais après non. Ça sous-entend pourquoi après il a arrêté, on comprend. Dafka Lorav Tsourier, il dit, si tu vois qu'il a arrêté, c'est qu'il a compris que c'était pas bien. Le Gaon de Vilna, lui, on dit sur lui qu'il buvait beaucoup. Le Gaon de Vilna qui se saoulait vraiment, c'est marqué dans Tosefet Maaserav Ot Ain, c'est dans le Maaserav HLM, c'est page 254. Le Sdechemed aussi, Ot Red Klal Tzadik Bet, il ramène que le Gaon de Vilna se saoulait à Purim, ad les Sakana, jusqu'à vraiment mettre sa vie en danger. Il était ivre-mort, il était terriblement rond. Le Maharil Diskin aussi pareil. Maharil Diskin, on dit qu'il a accompli la mitzvah Kepshuta à 100%, comme c'est marqué dans le livre Asaraf Mibrisk, Perek Yudalef, c'est page 134 à 136. Rabbi Israël Salanter, là c'est pas clair. Rabbi Israël Salanter, qu'est-ce qu'il faisait? Le père du Moussa, qu'est-ce que faisait Rabbi Israël Salanter? Alors, le Rav Volbe écrit que Rabbi Israël Salanter, il se saoulait Keshikruto Shel Lot. Il se saoulait Mamash comme Lot. Il se saoulait comme on ne peut pas plus. C'est comme ça que c'est marqué dans le Haléchou Chelek Bet, Char Gimel Perek Rov Dalet, c'est page 468. Il ne donne pas sa source, il ne dit pas d'où est-ce qu'il le sait. Il nous balance ça comme ça, que Rabbi Israël Salanter se saoulait à fond. Mais oralement, il a dit que c'est Rabbi Rucham Leibovitch qui lui a dit, son maître Rabbi Rucham Leibovitch qui lui aurait dit ça. Il y a plusieurs Sfarim qui écrivent l'inverse. C'est bien beau ce qu'il nous dit, mais beaucoup de Sfarim nous disent l'inverse, qu'au contraire, Rabbi Israël Salanter buvait, mais en aucun cas n'était ivre. C'est marqué, il y a un livre qui s'appelle Hafetz Chaim Chayav ou Pealo. Hafetz Chaim, sa vie, son œuvre. Il est ramené dans ses fers à l'écouter Shoshaim le David, page 515. Et c'est machma comme ça aussi, d'ailleurs, dans le Emek Bracha qu'on a cité tout à l'heure, que Rabbi Israël Salanter disait que c'était un chiour de l'exemption et pas un chiour du Chiyuv, qu'en fait, Rabbi Israël Salanter lui-même ne se saoulait pas vraiment. Juste, il buvait, mais il n'était pas saoul. Le Aderet, Rabbi Eliyahu David Rabinovitch Théomim, c'était le beau-père du Rav Kook, lui a dit dans son Seder Eliyahu, c'est un livre autobiographique très sympathique, page 27. Il écrit qu'il est allé une fois rendre visite à Rabbi Yisroel Salanter à la fin de Sudat Purim. Il est arrivé, il dormait, et il marque dans son livre qu'il dormait après avoir accompli la mitzvah Levasume Bepuria. Alors c'est pas clair, ça veut dire qu'il s'était bien saoulé, donc il s'était effondré, ou bien il a voulu faire comme le Rama, boire un peu et aller dormir. Donc on ne sait pas. En tout cas, mon maître, le Rav Gedalia Nadel, il disait que c'est sûr et certain que Rabbi Yisroel Salanter ne se saoulait pas à ce point. Il buvait, ok, mais boire pour en arriver à Shikruto Shel Lot, il a pris le même exemple, Mamash de Rav Volbe, mais à l'envers, il dit, c'est certain que non, c'est impensable d'en arriver là, qu'il soit plus maître de lui, dit Vadaï que non. Je ne pense pas qu'il ait lu le Haléchour, ce n'était pas son genre de lire le Haléchour, ça ne l'intéressait pas spécialement de lire le Haléchour, mais en tout cas, voilà, il dit Mamash l'inverse, il ne ramène pas de preuves, mais il dit logiquement c'est impossible d'imaginer une telle chose. Pourtant, on a parmi les élèves de Rabbi Yisroel Salanter deux qui eux se saoulaient. Rabbi Yitzchok Blazer, connu sous le nom de Rabbi Tzal et Peter Berger, Rabbi Yitzchok Blazer et aussi Rabbi Naftali Amsterdam, ces deux grands talmidim de Rabbi Yisroel Salanter. D'ailleurs, Naftali Amsterdam, son Yurtzeit, c'était ce Shabbat, le 6 Adar. Il est mort en 1916, ça fait 97 ans. Eux, ils étaient vraiment sous à Purim. C'est marqué dans le livre de Rav Nosson Kamenetsky. Il a écrit un livre, le fils de Rabbi Yaakov Kamenetsky. Il a écrit un livre qui s'appelle Making of a Gadol. Comment faire un Gadol en 10 leçons. Comment on fabrique un Gadol. Dans ce livre-là, page 1064, où les 10 leçons, elles sont longues apparemment, il écrit, et c'est écrit la même chose dans Tnoua Tamoussar, page 228, que lorsqu'on a demandé à Rav Naftali pourquoi il ne se contentait pas de faire comme le Rama, de boire un petit peu et d'aller dormir, il a répondu que si Mordechai et Tzadik, Mordechai de la Megillah, avait recherché des coulottes, probablement il se serait prosterné devant Aman. Et s'il s'était prosterné, toute l'histoire de la Megillah, on ne l'aurait pas eu. Par conséquent, il dit en matière de Purim, en matière de Hilchot Purim, il ne faut pas chercher les coulottes. Ce qui a marqué, on fait et c'est tout. Donc lui, il disait qu'il fallait se saouler et c'est tout. C'est intéressant de remarquer qu'il a considéré que ce Rama qui dit de ne pas se saouler mais juste de boire un peu et d'aller dormir, c'est une coula. Et il considérait que se saouler, c'est une chumra. Genre c'est difficile, ah il faut se saouler, aïe aïe aïe. On a revu la même idée avec le shoot d'Ivri Yatsiv dans Chelek Likutim Vashmatot Siman Samervav du rabbi de Kloisenburg, qui disait au nom de son grand-père, le Divré Chaim, qu'il disait que chaque Purim, il dit Galoui Veyadoua, que pour tout l'or du monde je ne voudrais pas me saouler. Valmaev Charla Asot, mon ancêtre, le Chacham Tzvi, disait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Chayav, c'est que plutôt c'est Chayav, Ad Mesirut Nefesh. Donc on est obligé, donc il se saoulait. Mashma là aussi que ça l'embêtait, que c'est difficile, mais en fait, on voit pas trop où est la grande difficulté. En tout cas, ceux qui se saoulent n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de mal à y arriver. J'ai demandé à Rav Nosson Kamenetsky qu'est-ce qu'il faisait son père Rabbi Yaakov. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il se saoulait à Purim ou pas? Il m'a dit, il s'est saoulé une seule fois quand il était à la Yeshiva à Slabodka. Slabodka, pas en Israël, hein, Slabodka, Slabodka. Il s'est saoulé une seule fois et après il a dit qu'il a vu que c'était pas pour lui ce genre de truc là et donc depuis il s'est plus jamais saoulé. Le Rabbi Rucham Leibovitch lui il ramène dans son Da'at Torah sur Parashat Vayeshev qu'il a demandé à Adam Tzadik Vegadol Meod, un grand tzadik, il lui a demandé à Simchat Torah. Oui, parce qu'il faut savoir que chez les Lituaniens on se saoule à Simchat Torah aussi. Et à Simchat Torah et Purim en Lituanie. Il a demandé à Simchat Torah, un grand rabbin, un grand tzadik, pourquoi il ne se saoule pas, pourquoi il ne boit pas. Et il lui a répondu, je connais mes faiblesses et j'ai peur d'un petit dérapage, donc je ne préfère pas. Alors, Rav Nosson Kamenetsky, dans Making of a Gadol, deux pages plus loin, page 1066 dans la note, il dit, à mon avis, c'est qui ce gadol-là? À n'en pas douter, il dit, c'est son maître, c'est-à-dire, c'est le Saba Mikelem. Saba Mikelem, c'est Psim Chazissel. Psim Chazissel Ziv, c'était aussi un élève du Khatam Sofer. Donc il dit vraisemblablement, si à Simchat Torah, il ne se saoulait pas pour cette raison, apparemment, à Purim, il devait en faire autant aussi et ne pas se saouler. Moshe Tsouriel, toujours dans son Leket Pirushé Agada, Chelek Bet, à la fin, il écrit que tous les grands rabbanim ont toujours évité de se saouler. On ne trouve pas parmi les grands rabbanim qui se soit saoulé. Alors apparemment, sur le Gon de Vilna, il écrit là-bas, il ne s'est pas saoulé. Il ramène des textes qui disent que non, mais beaucoup de livres, comme on l'a cité, disent que oui, c'est étrange. En tout cas, lui, il dit les grands rabbins ne se saoulaient pas. Il dit même le Chacham Tzvi, il l'a fait que dans sa jeunesse, après il a arrêté. Il dit de nos jours, c'est que du Chilul Hashem. Et par conséquent, il ne faut pas se saouler. Mon maître Rav Gershon Edelstein, qui est le Rosh Yeshiva de Ponevitch actuellement, il dit, chaque année il rappelle ça, c'est imprimé, maintenant ils font des sichot de Rav Gershon, maintenant ils les mettent par écrit, un petit papier comme ça, Darkei Chizuk s'appelle, dans le numéro 44, c'est la drachat parashat Tetzaveh de l'année dernière, en Tafshinayin Bet, il écrit la même chose aussi, il dit qu'on n'a jamais vu parmi les rabbanim des générations précédentes qui se soient saoulés, il dit c'est pas quelque chose qu'il faut faire, et il témoigne que le Chafetz Chaim ne se saoulait pas, et que le Chazonish ne se saoulait pas. Rav Gedalia Nadel aussi, il dit qu'il était chez le Chazonish à la maison à Purim, mais qu'il a vu et qu'il ne se saoulait pas, il y a le Stipler qui est venu là-bas, etc. Et Razni, juste, il a fait des petits gestes comme ça, il a fait un peu le mariole, mais il ne se saoulait pas. Il buvait un peu, mais sans se saouler. Il y a un Sefer, Beitona Avakodesh, sur le mois de Hadar, page 248, il écrit qu'à Belz, dans la chassidut de Belz, pas à Belz en Israël, à Belz, on ne se saoulait pas. Interdit de se saouler à Belz. Pareil dans la Tzava de Rabbi Yoel Frumkin. Rabbi Yoel Frumkin de Amtislov, il écrit dans Kuntra Simre Koidesh, Hot Yotet, qu'il ne faut pas se saouler à Purim, c'est interdit, il ne faut pas, tatati, il est contre ça. Moi je sais, il y a Rabbi Yaakov Toledano, le fils de Rabbi Orton, celui qui a ouvert l'école du Rinci, les Yeshiva du Rinci, etc. Lui, il se saoulait à Purim, mais c'est assez rare chez les Sfaradim. Généralement, les Sfaradim ne saoulent pas, ils boivent, mais ils ne se saoulent pas. C'est un truc lituanien de se saouler comme ça, je ne sais pas, c'est pas très Sfarad. Et voilà, en tout cas, lui, il se saoulait, il buvait, et voilà. Et généralement, les Sfaradim boivent. À part un, il y a Rabbi Chai Tayeb Lomet, vous connaissez, s'il y a des Tunisiens dans la salle, Rabbi Chai Tayeb Lomet, lui, il se saoulait, mais pas que à Purim, il se saoulait toute l'année. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est bizarre, il y a plein d'histoires bizarres sur lui. On raconte, c'est parce que c'est Ktavim, c'est Chidushim avait été brûlé, et donc il a déprimé, et donc il buvait, il se saoulait à la raque. Je ne sais pas qu'est-ce qui est exactement vrai là-dedans. Ce qui est certain, c'est que même quand il était sous, c'était pas pour faire des bêtises, ça lui permettait d'avoir des assagot, c'était un grand kabbaliste. Et le fait est que toute sa vie, il a été énormément respecté par tous les juifs de Tunisie, c'est pas en vain. Si c'était juste un monsieur qui se saoulait, c'était en arak. Alors, dans le Halichot Shlomo, Chelek Bet, page 343, il y a marqué que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach considérait que ce qui se passe de nos jours c'est de ces jours, c'est fin du XXe siècle, ce qui se passe, ce qui se fait de nos jours n'est pas correct. Ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux religieux en Israël et ailleurs, il dit c'est pas correct. Il dit l'interdit, le issour de Albana de faire honte à quelqu'un ou de Onaa de vexer quelqu'un, c'est des issourim qui restent en vigueur même le jour de Purim. Pareil, le Rav Horowitz aussi, il mettait toujours en garde contre ça. Le Rav Horowitz, qui était. Rav Horowitz, il était Beddin de Badas de Jérusalem. Avant, il était rabbin à Strasbourg. Dans le Shoot Kinyan Torah Ba'alacha, Chelek Bet, Siman Kufrof Hei Ot Bet, il reproche un peu ce qui se passe de nos jours. Il dit ça va pas du tout. Rav Ovadia Yosef aussi, dans le Shoot Yichavedat, Chelek Hei Siman Nun, lui aussi, rouspète un peu sur ce qui se fait de nos jours. J'ai vu une petite feuille qu'ils ont distribuée ici à l'école. Ils se disent comment ça se passe pour Rim chez les rabbins. Il dit qui connaissent comme rabbin ici. Ils connaissent Rav Yosef. Alors ils ont dit comment ça se passe. Ils ont demandé au fils de Rav Yosef comment ça se passe là-bas. Il dit que son père, il boit un peu, mais il se saoule pas. Et qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez eux, à la maison, au Michté, et il s'est déguisé en Rav Yosef. Il a mis tout le bastringue, les habits, machin, comme ça, le petit chapeau bleu et tout. Et il paraît qu'il l'a imité Nifla. Son fils dit que c'est une imitation époustouflante. C'est vraiment rigolo. Et il a dit, on était tous pliés en deux de rire, sauf lui. Il était là comme ça, impassible. Apparemment, on se fait énerver même. Et il a rien dit du tout. À terminer, il a dit, bon, allez, on y va. Ça lui plaît pas trop, cette histoire. Rappelez-vous que c'est lui qui dénonce que Rabbi Shimon Sofer est mort de tristesse, enfin, est mort de vexation. Voilà. Donc, il aime pas ça. Le Rav Yosef a toujours écrit là-dessus. Il dit, c'est quoi, ces manières de se moquer des rabbinistes? Alors, je pense pas que le type là-bas, il est venu se moquer de lui, chez lui, etc. Mais je rigolais un peu, quoi, sans se moquer, pas méchamment. En tout cas, ça lui plaît pas tellement. Il faut bien qu'il ait un côté ashkenaz. Le Rav Sternbuch aussi, dans Moadim Uzbanim Chelek Bet Siman Kuf Tzadik Aleph et Arabet aussi, il ramène ça, il dit que c'est pas bien de se moquer des rabbins, de faire le mariole comme ça à Purim. Et Rav Gedal et Nadel aussi, toujours crié là-dessus, que c'est pas bien du tout. Il faut savoir que Malbim Pnei Chavero Barabim, c'est un Issour Minatora, dans le Rambam Ilchot Deot, Perekvav Alachachet, dans le Sefer HaMitzvot, Lota Asechin Gimel, c'est mentionné comme un Issour Minatora. Le Chinuch aussi, dans Mitzvah Reishmem, que c'est un Issour Minatora, et que celui qui fait ça, qui humilie quelqu'un en public, En Lo Chelek Le Olam Haba, comme c'est marqué dans la Mishnah Avot dans Perek Gimel, dans les Mishnayot c'est Mishnah Yudalef, dans la Gemara Baba Metzia Nuntet Amudalef aussi c'est marqué celui qui humilie son prochain en public. Certains sont même allés jusqu'à dire que faire honte à quelqu'un en public, ça serait Yarek Valia Avor. Il y a un Tosot comme ça dans Sota d'Afud Amudbet, et c'est aussi marqué comme ça dans le Shoot Binyan Sion Chelek Alef Siman Kuf Ein Bet et Siman Kuf Ein Gimel. C'est Vadaï pas la Halacha, mais malgré tout, si ça a pu être dit, c'est que c'est très grave. Dans le Magid Mesharim, Parashat Vayakel d'Aflamedhem ou d'Alef, et c'est ramené aussi dans différentes farines, dans le Kaveyachar, Perek Tzadik Zayn, dans Shikrat Eleket à la fin du Sefer El Koudre Veni d'Afibet et Moudalef, dans Moed Lekol Chai Siman Lamed Alef, que le Ta'anit Esther, il a été mis d'Afka avant Purim. Pourquoi Ta'anit Esther, on le fait le 13 Adar? Justement parce que c'est une Segula Leinatzel Minachet. C'est comme on sait qu'on va boire, on va manger, on va rigoler, on pourrait vexer quelqu'un ou blesser quelqu'un, Chas Veshalom. Alors Segula, pour éviter ça, c'est de s'affaiblir par un jeûne avant Purim. Cette année, ça cloche un peu, c'est un peu trop tôt. Mais en principe, on le fait la veille. Justement, pour ça, la même idée se retrouve dans le Divriyat Siv, le rabbi de Kloisenburg. Il a pensé à ça de lui-même dans Chelek Orachaim Siman Rish Tzadik Bet. Hein, parce que théoriquement, le jeûne de Esther, il a pas eu lieu le 13 Adar, c'est lieu le 14 Nissan. Et ça aurait été ça la vraie date. Le Rashi, le Tosfot, il parle de ça dans Megillah, Daftet Vav Amud Alef, Daftet Zayin Amud Alef. Voilà, donc pourquoi on a mis le Tanit Dafka ici? C'est pour affaiblir, justement, pour faire une sorte de ségoula, pour pas arriver à faire des péchés à Pourim. Conclusion, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Les Maskanot. On a plusieurs groupes de Rabbanim. Il y a ceux qui pensent qu'il faut se saouler. Alors malgré tout, avec une Kavana, les Shem Shamaim, etc. Le Harizal dans Shara Kavanot, on a dit, pas clair, peut-être pas. Le Chacham Tzvi, que dans sa jeunesse. Sinon, on a Rashi, Marzor Vitri, le Rabbeinu Yerucham, Sefer HaEshkol, le Rambam, le Grand Rabbi Israël Salenter, peut-être, c'est pas clair, le Seder Hayom, et Reb Tzadok HaKohen de Lublin. Tout cela, il pense ça. Le Menorah Tamahor lui dit, dans Hot Kuf Lamed Zayin, que c'est uniquement si on fait ça, les Shem Shamaim, si notre Kavana, c'est de faire comme les Kadmonim, les Shem Shamaim, mais sinon, c'est sûr que c'est Assur. Et à part ça, on a vu une Marloquette aussi, est-ce que le Amaharetz a le droit, Bichlal, de se saouler, ou bien c'est réservé au Talmid Chacham. Après, il y a ceux qui pensent que c'est pas vraiment un Chiyuv de se saouler. C'est pas chiyuv mamash, c'est uniquement les mitzvahs, juste comme ça, comme a dit le Roche. Il y a le Roche, le Mahari, le Leket Yoisher, le Hagaot Maimoniot, le Ravia, le Eliarabah, le Biur Alakha, le Or Hajulchan, le Knesset Agdola, le Tseid Aladerer, le Maharsho et encore d'autres. Il y a ceux qui pensent ad velo ad bichlal, qu'il faut se saouler jusqu'à, mais pas inclus, donc faut s'arrêter avant. C'est Rabbeinu Meir Ameili, le Yad Ephraim, Korban Nesanel, le Maharsham Sfatemet, le Ktaf Sofer et le Emek Bracha. Il y a ceux qui disent que la chikrout, l'ivresse, c'est un issour, hamour, gamour, peut-être le plus grave, etc., etc., et que celui qui fait ça, mais à bet rochmato, c'est le yesod veshoresh avoda, le binal haetim, le orchotraim, pele yoetz, le meiri, le nimuke yosef au nom du rambam. On avait dit que ce rambam n'existe pas dans le rambam, mais c'est au moins en tout cas un nimuke yosef. Et, en final, ceux qui pensent qu'il ne faut pas se saouler, juste boire un peu plus que d'habitude, soit parce qu'ils pensent que la halakha n'a pas été retenue comme Rava, soit parce qu'ils pensent que la halakha a été retenue comme Rava, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se saouler, il faut juste boire un peu et éventuellement aller dormir après. On a le Rabbeinu Ephraim, le Baal HaMahor, le Ran, le Shibole Aleket, le Smak, le Meiri, le Be'ag, le Yiri'im, le Orchot Chaim, le Aboudaram, le Rama, le Knesset Agdola dans la Hagot Bet Yosef, le Prichadash, le Shla, le Mate Moshe, le Pele Yoetz, le Chida, le Menorah Tamor, Yesod Veshoresh Avoda, le Binal Haetim, Rab Gedal, Enadl, Rab Yash Nedelstein, et encore une tripotée, je ne vais même pas citer tout ce qu'on a cité aujourd'hui, et il y en a beaucoup plus, croyez-moi, qui disent qu'il ne faut pas se saouler, juste on boit un peu plus et c'est tout. Voilà, donc en Maskana, c'est sûr, c'est clair, sans aucun safek, que ne serait-ce que Midin Shev Valtaï, c'est que si on a l'ombre d'un doute, que peut-être quand on se saoule, on ne le fait pas à 100% les Shem Shamaim, c'est pas chouette qu'il ne faut pas se saouler. Parce que même si on le fait les Shem Shamaim, la majeure partie des poskim pense qu'il ne faut pas se saouler. Mais celui qui veut vraiment le faire, les Shem Shamaim, il pense qu'il le fait bien, qu'il va se rapprocher de Dieu, alors il peut. Puisqu'il y a quand même Yeshmoel, Yeshmoel Milismor. Dans le Toldot Yaakov Yosef, dans Parashat Kitavo, c'est un sefer de Chassidut, dans Parashat Kitavo, il écrit que le tachlit de cette obligation, le but de cette obligation de se saouler, c'est pour que la Neshama puisse se réjouir sans avoir honte du fait que le corps ne suit pas, que le corps, lui, ne se réjouit pas. Il dit, mais si c'est l'inverse qui se passe, que c'est le corps qui se réjouit, la neshama, elle est complètement à l'abandon, c'est certain qu'on est en dehors de la mitzvah. Si on ne ressent pas une grande élévation spirituelle quand on se saoule, c'est certain qu'il ne faut pas se saouler. Le Ismach Moshe qu'on avait cité, il avait dit que le but c'est d'arriver à être pashtut à gashmiut, se détacher de la gashmiut et devenir 100% rohani. Je laisse le mot de la fin au Chida. Le Chida écrit dans Lev David, Perek Raftet, c'est très tard déjà, je vois que j'ai fait un peu plus longtemps que ce que je pensais. Il écrit dans Lev David, Perek Raftet aussi dans Dvarim Achadim Drush Vav, il dit que c'est évident pour lui, pas shoot le enav, c'est évident, il n'y a pas l'ombre d'un doute, que si nous tous allons être makdishim, réservés un moment dans cette journée, pas seulement pour boire et rigoler, mais aussi réservément pour Talmud Torah, il dit c'est pas shoot, sans l'ombre d'un doute, Shehaynu Nigalim, que la Géoula arriverait et que le Mashiach viendrait, Bimera, Beyamenu, Amen. Amen.